L'erreur du temps de la fin. Brian Kozurek. Ce sermon parle de l'erreur du temps de la fin. Erreur qui est en train de circuler à travers le monde, dans le domaine chrétien, et elle s'est faufilée dans les églises du message. Frère Branham nous a avertis comme Paul l'a fait. Père, leur est venu 56-10-02 à eux, 57 leur est venu où il y a une apostasie. La Bible a dit, s'il n'y a pas d'apostasie, l'homme du péché Néhémie va pas se révéler. L'église pentecôtiste est en train de vivre dans la finale de tous les temps. L'heure est revenue. L'heure est revenue où les miracles doivent accompagner les croyants. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes sous la pluie de l'arrière-saison. Nous sommes au temps où les hommes seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruel, ennemi des gens de bien. Emporté, enflé d'orgueil. L'heure est revenue où ils enseignent des doctrines des démons, pervertissant l'enseignement de la Bible en des théories et en des théologies, pour entraîner des gens derrière eux. Étant donné que c'est un temps de grave apostasie, ce sermon aborde un thème très sérieux. On m'a demandé par quelqu'un qui propage ses erreurs de retirer cette étude du site internet. Il prétend que ça amène le combat au devant de la scène. Cette étude Néhémie reflète en aucun cas une attitude de rivalité, bien que Paul nous ait recommandé de combattre le bon combat de la foi. Ce sermon a pour seul but de sauver les âmes en les arrachant de l'erreur. C'est à vous de décider. Que Dieu vous bénisse pendant que vous lisez cette étude. Avant de commencer notre étude ce matin, j'aimerais tout juste dire que cette mini-série de réunions sur les fausses doctrines, qui découle d'une incompréhension de la révélation de Jésus-Christ, c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai entreprises jusqu'à ce jour, à l'exception de l'étude sur la divinité et de celle sur la parousie, présence, qui sont présentées sous forme de brochures. Il y a une approche complètement différente, qui doit être adoptée quand on écrit un livre, par rapport au fait de prêcher tout simplement. Premièrement, nous devons rechercher ce qui est en train d'être dit et qui n'est pas conforme à la compréhension correcte de la révélation de Jésus-Christ. Ensuite, nous devons connaître ce que ces hommes sont réellement en train de transmettre aux gens. Dans le processus qui nous amène à cette compréhension, nous devons alors examiner quelles techniques d'enseignement ils utilisent et nous devons les démolir et nous devons montrer comment elles ne sont pas correctes. Et en fait, dans l'erreur ayant trait à la parole de Dieu. Et puis ensuite nous allons montrer par l'écriture et aussi par le message de Dieu confirmé, où réside l'erreur, en comparaison avec la vérité. Enseigner que quelque chose est faux sans vous montrer pourquoi c'est faux serait une défaillance et son ennemi prouverait rien. Nous devons connaître ce que nous croyons, et nous devons nous accrocher fermement à ce qui est correct. Voilà pourquoi il est vital de connaître ce qui est en train d'être enseigné et la raison pour laquelle cela est enseigné et comment cela est enseigné. Alors nous pouvons voir réellement d'où vient cet enseignement. Et où était la source de cela et pourquoi cela est dans l'erreur? Et qu'en est le but final? Et en fait, ce que sont leurs véritables pensées sur la rédemption? Car lorsque nous traitons d'un sujet aussi vital que la révélation de Jésus-Christ, nous traitons du plan de la rédemption. Si les hommes tombent dans l'erreur concernant la divinité ou la révélation de Jésus-Christ, c'est parce qu'ils n'aiment comprennent pas le plan de Dieu de la rédemption et qu'ils sont sortis de la protection de la parole. Frère Branham nous a enseigné que toute fausse doctrine a eu sa source dans Genèse, le chapitre semence. Le livre d'Apocalypse met à nu chaque semence qui avait été plantée et il montre ce que cela est réellement. Sur ce, c'est bien une entreprise. Et ça demande beaucoup d'attention, Et ça exige qu'on s'attende beaucoup à Dieu afin de pouvoir présenter ça correctement ensemble dans l'ordre qu'il faut et dans la structure qu'il faut. Surtout que beaucoup de points abordés ici n'ont pas de base dans la Bible. Maintenant, ayant ça à l'esprit, nous allons commencer notre étude détaillée de ces doctrines et de la raison pour laquelle elles sont fausses vis-à-vis de la révélation de Jésus-Christ. Comme nous le savons et comme cela a été enseigné par le prophète de Dieu confirmé. Comme vous pouvez le savoir, la première de ces fausses doctrines, qui a levé sa tête dans les toutes récentes années, c'est la doctrine du Saint-Esprit féminin. Cette doctrine a en réalité commencé au milieu du mouvement féministe et elle a taillé son chemin dans presque chaque dénomination. J'ai entendu ça pour la première fois en 1977. Chez une assistante de principe dans l'école où j'enseignais. Elle était en train de corriger une jeune délinquante juvénile. La jeune fille avait utilisé le nom du Seigneur en vain, et cette féministe, l'assistante de principe, la corrigea en disant, « Comment osais-tu prononcer son nom, elle, en vain ?» Quand la jeune délinquante a répondu avec une question, « Son nom à elle ?» La féministe a répondu, « Oui, mon Dieu, Esther, une femme. » Plus tard, j'ai encore entendu ceci être enseigné à la radio à Dallas, Texas, en 1990. C'était propagé par un ministère évangélique par la radio. Elle a ses récentes racines au sein du mouvement méthodiste où il était question de réécrire leur livre de chants et cela devint un sujet d'intérêt public il y a quelques années. L'objectif qu'il poursuivait, c'était celui d'éliminer tous les endroits où l'on fait référence au genre de Dieu comme Père. Tous les autres endroits où l'on fait référence au genre de Dieu dans un rôle masculin étaient également éliminés. Ce qui Esther arrivait après cela, c'est que cette doctrine s'est propagée dans beaucoup de portails du christianisme et elle a infecté beaucoup de gens chrétiens ayant de bonnes intentions. Le simple fait que les églises déclarent qu'ils croient le message Néhémie les a pas épargnés contre cette doctrine ravageuse. Remarquez l'article tiré du Dayton Daily News, imprimé le 9 octobre 1933. Cet article parle de cet enseignement, qui s'est infiltré dans toutes les dénominations. J'ai bon espoir que mes confrères croyants dans le message de William Branham verront ceci et j'espère qu'ils vont connaître l'origine de cet enseignement erroné, qui s'est faufilé jusque même parmi ceux qui prétendent croire le message. Cet enseignement est venu de l'extérieur et il a été introduit dans l'église comme Saint Pierre l'avait dit que ça arriverait. Dans 2 Pierre 2, là où il a parlé des hommes, qui viendraient parmi nous et qui amèneraient des doctrines pernicieuses avec eux. La seconde erreur que nous porterons à votre attention découle et résulte des gens qui croient cette première fausse doctrine. Ce second faux enseignement est la doctrine, qui enseigne que la plénitude de la divinité est maintenant dans l'épouse. Cet enseignement tire ses origines dans le mouvement du Nouvel Âge et il est le fruit de l'ignorance concernant la divinité. Toutes ces deux erreurs ont leur racine originale dans le premier âge de l'Église. Quand Irénée est venu dans le second âge de l'Église, il a écrit un traité pour les réfuter. Nous savons que frère Branham nous a enseigné que l'alpha se répète dans l'oméga. Par conséquent, nous aimerions vous montrer que ce qui a infecté d'erreur le premier âge de l'Église doit pareillement revenir infecter d'erreur le dernier âge de l'Église, et ce qui a inoculé les véritables croyants contre l'erreur dans le premier âge, la même chose inoculera aussi les croyants du dernier âge de l'Église contre la contagion de l'erreur. En gardant ceci à l'esprit, commençons notre étude avec le paragraphe 264 du seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Là où frère Branham a dit, pas de levain parmi vous, qui amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Or, j'aimerais que vous remarquiez combien il a bien pesé ces mots en disant parmi vous et non pas en vous, comme nombreux le disent aujourd'hui. Pas de levain parmi vous, qui amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Je veux également que vous remarquiez qu'il a dit, corporellement parmi vous. qui amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Or, il n'a pas dit en vous, mais il a dit parmi vous. Puis il décrit cette déclaration alors que nous continuons la lecture. Onéhémie pouvait pas le faire dans l'âge de Luther. Onéhémie pouvait pas le faire dans l'âge de Wesley. Onéhémie pouvait pas le faire dans l'âge pentecôtiste. Mais au jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé. Nous voyons donc que cette plénitude de la divinité corporellement parmi vous est rattachée à la manifestation ou à la révélation du Fils de l'homme. Un ministère spécifique pour un temps spécifique et pour un peuple spécifique à travers une personne spécifique. En d'autres termes, la confirmation. Frère Branham continue en disant, il a ramené l'Église ensemble avec toute la divinité de Dieu parmi son peuple, montrant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, quand il fut manifesté sur la terre. Ainsi donc, nous devons nous poser cette question, comment s'est-il manifesté à nous sur la terre? Et frère Branham répond, sous la forme d'un Dieu prophète. Oh! Gloire! Promis par Malachie 4. Promis par le reste des Écritures. Où est-il ce que vous adorez? La maison de Dieu. Assis au temps présent. Or, ça. C'est une déclaration formidable que frère Branham fait en rapport avec la révélation de Jésus-Christ, ou plutôt en rapport avec la divinité et en rapport avec ce que Dieu est en train de faire en cette heure. Autrement dit, la confirmation, laquelle Néhémie vient que sous la forme de sa présence parmi nous. Mais ce que nous avons est également une citation qui est utilisée par beaucoup de gens qui Néhémie comprennent pas la divinité, et en conséquence, ils n'aiment et comprennent pas cette confirmation ou cette présence, laquelle est une présence de Dieu au milieu de nous dans cette heure-ci. Maintenant, remarquez qu'il dit, l'Église ensemble avec toute la divinité de Dieu parmi son peuple, montrant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, quand il fut manifesté sur la terre. Or, tout d'abord, si la plénitude de la divinité est maintenant dans les pouces comme certains le disent, où donc est-ce cette manifestation ou cette confirmation aujourd'hui? Si Néhémie peuvent pas la produire, alors ce Néhémie vaut pas la peine d'en parler. Dans Malachie, nous voyons venir un prophète dans l'esprit et la puissance d'Élie. En examinant le ministère d'Élie, nous le voyons prêcher un seul Dieu. Le message qu'il a adressé au peuple était une restauration de la vraie adoration à ce seul vrai Dieu. Il est le seul Dieu. Son ministère était de le faire connaître, lui, Dieu, que lui, Dieu, est ici. C'est exactement comme ça que le ministère de frère Branham était de le faire connaître, lui, qu'il est ici. Dans Luc 17. Nous voyons comment les pharisiens, en questionnant Jésus, ils lui ont demandé où était le royaume de Dieu, parce qu'ils n'arrivaient pas à le voir. Il a répondu qu'il était au milieu d'eux et que Néhémie pouvait pas le voir. Il a dit, je vous le dis, quand bien même vous Néhémie le voyez pas, il est ici parmi vous. Je crois que ce que frère Branham était en train de faire ici, tout comme il l'a peut-être fait à 80% de fois, c'était de présenter aux gens cette présence de Dieu, laquelle est en soi la confirmation. En fait, ce qu'il était en train de nous dire concernant Dieu et concernant sa présence parmi nous, ça se trouve en fait dans d'autres époques et dans d'autres endroits, dans l'Écriture, sous forme de type et d'ombre de cette chose-ci qui devait venir. Mais, étant donné que les gens refusent de laisser tomber leurs pensées, ils n'aiment et comprennent pas la révélation de Jésus-Christ puisqu'elle n'aiment pouvait venir qu'au travers du ministère du Fils de l'homme au temps de la fin. Par conséquent, ils prennent à contresens la confirmation et la présence de Dieu, et ils finissent par conséquent par s'élever avec leurs propres idées de ce qu'est réellement le ministère de Frère Branham. Après tout, il y a eu tellement de manifestations qu'on n'aimait peut simplement pas manquer quoi en faire. Par conséquent, tout comme Nicodème est venu à Jésus et a dit, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne n'aimait peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui, et, bien que les Sanhédrin connaissaient bien ceci, ils n'aimaient voulaient pas accepter eux-mêmes ses enseignements. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas conformément à la prédisposition de leurs pensées, leurs notions préconçues, concernant ce que cela serait. En d'autres termes, ce que Jésus leur disait était totalement étranger à leur manière de penser, et ils n'y pouvaient pas le comprendre. Ils se sont confectionné leurs propres idées de ce que serait son ministère, et ce faisant, ils devaient au bout du compte se retourner contre ça et dire que ce n'était pas de Dieu et qu'il était un blasphémateur. Dans cette étude, nous allons examiner ce qu'ils se sont confectionnés dans leurs propres pensées en rapport avec la révélation de Jésus-Christ dans cette heure. Par conséquent, dans cette étude j'aimerais ressortir comment ces hommes pensent et quelle méthode d'enseignement ils utilisent pour endoctriner subtilement leur proie dans leurs croyances blasphématoires. Et enfin, je vous révélerai leur conception sur le salut, laquelle conception n'est pas conforme à la sainte parole de Dieu. Irénée a dit, « Je tiens à cœur de présenter les discours du Seigneur, de sorte que ces gens puissent non seulement être dépourvus des moyens de nous attaquer, nous qui croyons en vérité, mais que, comme ils seront raisonnablement incapables de répondre à ces questions que je vais poser, ces gens verront leur plan d'argument être détruit. Et mes espérances, en faisant cela, sont qu'ils puissent revenir à la vérité, et qu'ils puissent s'humilier et arrêter leurs rêves, qu'ils puissent demander pardon à Dieu pour ces blasphèmes qu'ils ont proférés contre lui, et qu'ils obtiennent le salut, ou encore, s'ils persistent dans leur système de vaine gloire, qui s'est emparé de leurs pensées, qu'ils puissent au moins juger cela nécessaire de changer le genre de leurs arguments contre nous. Tout d'abord, je voudrais vous tenir informé de leur mode d'enseignement. Sans exception, mon expérience, pour avoir écouté ces hommes, m'a appris qu'ils commencent presque toujours leurs sermons en lisant les Écritures comme texte de base. D'habitude, ils prennent une ou deux Écritures, c'est rare qu'ils en prennent plus et ils lisent ces Écritures pour ouvrir leur sermon. Mais après avoir lu ces Écritures, c'est très rare de les voir revenir à la Bible pour river leur doctrine. Ce qu'ils font, c'est de lire citation après citation, à partir de diverses sources et ils construisent leur doctrine de cette façon-là. Irénée a fait mention comment ces hommes tressent ensemble un mélange hybride de la vérité et de l'erreur pour ériger leur doctrine. Mais comme vous le verrez, ça n'y tient pas debout à lumière de la confirmation. Frère Branham a dit, « Or, vous n'y devez pas mal à qui interpréter la parole. Vous dites, « Eh bien, je crois que ça veut dire ceci. Ça veut dire exactement ce que ça dit. Ça n'a pas besoin d'interprète. Et vous n'y devez pas mal à qui placer la parole. Et vous n'y devez pas disloquer la parole. Et si nous faisons l'une de ces choses, ça jette la Bible dans une confusion et dans un chaos. Par conséquent, nous avons les yeux fixés sur trois choses que nous n'y devons pas faire. Numéro 1, nous n'y devons pas mal à qui interpréter la parole de Dieu. Ça veut dire interpréter à contresens, comprendre incorrectement ou expliquer incorrectement. Numéro 2, nous n'y devons pas mal à qui placer la parole de Dieu, ça signifie mettre dans un endroit qui n'y convient pas. Placer incorrectement ou placer de la manière qui n'y convient pas. Déplacer de la position naturelle ou correcte, du temps convenable ou du vrai caractère. Numéro 3, nous n'y devons pas disloquer la parole de Dieu, Ça veut dire troubler l'ordre ou déranger l'enchaînement de la parole. Frère Branham nous a également dit qu'il a seulement dit ce que Paul a dit. Et Paul a dit, nous devons dispenser droitement la parole de vérité, 2 Timothée 2, 15, et dans le second âge de l'Église. Irénée a dit, il y a de l'importance dans l'ordre et dans l'enchaînement des Écritures. En conséquence, nous devons garder la vraie signification de l'Écriture et nous ne devons pas y conférer nos propres interprétations. En pensant avoir trouvé un grand secret profond dans l'Écriture, lequel secret n'est-ce pourtant pas là? L'apôtre Pierre a dit la parole de Dieu Néhémie doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que Dieu interprète sa propre parole en l'accomplissant. Or, vous devez toujours vous rappeler ceci, l'alpha Esther devenu l'oméga et ce qui Esther arrivé dans le premier âge de l'Église doit se répéter dans le dernier âge. Et ce qui Esther arrivé dans le premier âge Esther, ils ont abandonné leur premier amour. Et notre premier amour, d'après Deutéronome, Esther d'avoir un seul Dieu, et de lui servir lui seul de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre âme. Ainsi, s'ils se sont égarés dans cette compréhension dans le premier âge, Néhémie le feront-ils pas à nouveau dans le dernier âge où Dieu visite une fois encore la terre pour se faire connaître dans la révélation de Jésus-Christ? Après tout, ce Néhémie sont pas ceux qui étaient les élus de Dieu qui s'y sont allés, mais c'est Esther l'Église qui s'y est allée. C'est Esther pourquoi? Pour commencer notre étude sur ces erreurs, il nous faut voir ce qui Esther arrivait dans l'alpha. Le Dieu qui Esther riche en miséricorde 65-019 paragraphe 33 et donc. Nous voyons que nous en sommes arrivés à un autre Éphésien. Un autre Éphèse maintenant. Alors que nos dénominations intellectuelles et tout. Et nos programmes pédagogiques. Que toutes ces choses sont arrivées à leur Jourdain. Alors nous devons avoir de nouveau un Éphésien. Nous devons avoir un Exode. Pour sortir et entrer dans, pour l'enlèvement. Et qu'Esther ce qui Esther arrivait à l'église dans l'âge de l'église d'Éphèse? Apocalypse 2, 1-5, paragraphe écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, de je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu, Néhémie, peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui Néhémie le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. 3. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu, Néhémie, tes ailes point lassées. 4. Mais ce que j'ai contre toi. C'est-à-dire que tu as abandonné ton premier amour. 5. Souviens-toi donc d'où tu es aille tombé. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Et je traite ton chandelier de sa place. À moins que tu n'aies mis de repente. Or, ce que j'essaie de vous dire Esther, que ce qui Esther arrivait dans le premier âge de l'église doit se répéter. Et pour connaître comment Esther terminait le premier âge de l'église, nous devons regarder au second âge pour voir dans quel état l'église était. Laissez-moi alors vous lire d'abord ce qu'Irénée a dit dans son premier livre intitulé, Irénée contre les hérésies. Livre 1. Concernant ceux qui propageaient des erreurs concernant la divinité dans le premier âge de l'Église. Dans la mesure où certains hommes ont rejeté la vérité et ils ont introduit des paroles mensongères et de vaines généalogies, lesquelles, comme le dit l'apôtre, le prédicateur met en doute plutôt que d'édifier pieusement ce qui Esther dans la foi, et, au moyen de leur plausibilité construite avec ruse, ils égarent les pensées des hommes inexpérimentés, et ils les tiennent captifs. Je me suis senti contraint, mon cher ami, de déjouer leur machination. Ces hommes falsifient les oracles de Dieu et ils se démarquent eux-mêmes comme étant de mauvais interprètes de la bonne parole de la révélation. Ils renversent également la foi d'un grand nombre en les égarant sous prétexte qu'ils ont une connaissance supérieure qui leur vient de celui qui arrondit et orne l'univers, comme si, en vérité, ils avaient quelque chose de plus excellent ou de plus sublime à révéler, qui dépasse ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et les choses qui s'y trouvent. Donc, par des moyens spécieux et des paroles plausibles, ils séduisent astucieusement les simples d'esprit, ils les incitent à examiner leur système, mais ils les détruisent maladroitement alors qu'ils les initient à leurs opinions blasphématoires et impies concernant la création. Et ces hommes simples sont incapables, en pareil cas, de faire la différence entre la fausseté et la vérité. L'erreur, en fait, elle n'est jamais présentée dans sa difformité nue, de crainte qu'une fois exposée de cette manière, elle soit tout d'un coup détectée. Mais elle est astucieusement ornée d'un biais attrayant, de telle sorte que, par sa forme extérieure, elle apparaisse pour les gens sans expérience, l'expression peut sembler ridicule, plus vraie que la vérité elle-même. Une imitation intelligente dans un verre donne de la satisfaction, comme si c'était, sur ces pierres précieuses, de l'émeraude, qui est terre très hautement estimée par certains, à moins que ça passe sous l'œil de quelqu'un qui peut tester et démasquer la contrefaçon. Ou encore, quelle personne inexpérimentée peut détecter avec aisance la présence de l'airain, une fois qu'il a été mélangé avec de l'argent? De peur donc que par ma négligence, certains puissent être emportés au loin, comme les brebis sont emportées par des loups, quand ils n'y voient pas le vrai caractère, car de l'extérieur, ils sont vêtus de peau de brebis, hommes contre lesquels le Seigneur nous avertit d'être vigilants, et parce que leur langage ressemble au nôtre, alors que leurs sentiments sont très différents, j'ai trouvé qu'il est de mon devoir, après avoir lu quelques-uns des commentaires, comme ils les appellent, des disciples de Saint Valentin, et après avoir moi-même pris connaissance de leurs principes, par des rencontres personnelles avec quelques-uns d'entre eux, de te dévoiler, mon ami, ces mystères profonds qui sont de mauvais augure, et qui ne sont pas à la portée de toute intelligence, car tous n'ont pas suffisamment purgé leur cerveau. Je fais ceci pour que toi, après avoir pris connaissance de ces choses, que tu puisses éviter un tel gouffre de folie et de blasphème contre Christ. Je voudrais donc, au mieux de mon pouvoir, avec brièveté et clarté, présenter les opinions de ceux qui sont actuellement en train de répandre cette hérésie. Je fais spécialement allusion aux disciples de Ptolémée, dont l'école peut être décrite comme un bourgeon de celle de Valentin. Je m'efforcerai également, selon ma capacité modérée, de donner des moyens de les renverser, en démontrant combien leurs déclarations sont absurdes et inconsistantes par rapport à la vérité. Cela ne veut pas dire que je suis expert, soit dans la rédaction ou dans l'éloquence. Mais mon sentiment d'affection me pousse à vous faire connaître, toi et tes compagnons, ces doctrines qui étaient tenues cachées jusqu'à présent, mais qui sont enfin, par la bonté de Dieu, mise en évidence. Car il n'y a rien de caché qui n'ait puisse être révélé, ni de secret qui n'ait puisse être divulgué. Au chapitre 7, comment les Valentiniens pervertissent-ils les Écritures pour soutenir leurs propres pensées pieuses? 1. Cestèrent ainsi donc Esther leur système, lequel n'a été ni annoncé par les prophètes, ni enseigné par le Seigneur, ni même donné par les apôtres, mais au sujet duquel ils se vont être au-dessus de tous les autres, disant avoir une connaissance parfaite. Ils tirent leur point de vue à partir des sources autres que les Écritures, et pour faire usage d'un proverbe courant, ils essayent de tisser des cordes de sable alors qu'ils essaient d'adapter, avec un air de probabilité à leurs assertions particulières, les paraboles du Seigneur, les dires des prophètes et les paroles des apôtres, afin que leur plan Néhémie puisse pas sembler être dépourvu de tout soutien. En faisant cela, cependant, ils ne tiennent pas compte de l'ordre et de l'enchaînement des Écritures, tout comme dans leurs mensonges. Ils démembrent et détruisent la vérité. En altérant des passages de l'Écriture et en les habillant à nouveau, et en faisant d'une chose une autre, ils parviennent à induire pas mal acquis de personnes en erreur à travers leur science malicieuse, en adaptant les oracles du Seigneur à leurs opinions. Leur stratégie ressemble à celle de quelqu'un qui, après qu'une belle image d'un roi Esther construite par un artiste habile à partir des pierres précieuses, cette autre personne viendra dépiécer complètement cette image d'homme et il va réarranger ces pierres précieuses, et il les fera ainsi emboîter parfaitement de manière à en faire une image d'un chien ou d'un renard. Toutefois cette image Néhémie serait que de qualité minable, et cet homme va par la suite soutenir et déclarer que c'était ça l'image du roi qui avait été construite par l'artiste habile. Il vous présentera donc les pierres précieuses qui avaient admirablement été emboîtées par le premier artiste pour former l'image du roi. Image qui a été changée avec un mauvais effet par cet autre artiste en l'image de chien et par cela en exhiber les pierres précieuses. Il va séduire les ignorants qui n'ont aucune idée de ce qu'était la forme de roi. Et il va les convaincre à croire que cette image misérable de renard était en réalité la belle image de roi. De la même manière, ces personnes collectionnent des fables de vieilles femmes, puis ils essaient, en détournant brusquement, à partir de leur propre enchaînement, les mots, les expressions et les paraboles, à quelques moments qu'ils en trouvent, pour adapter les oracles de Dieu à leur fiction sans fondement. Nous avons déjà vu comment il continue dans cette voie, concernant l'intérieur de la plénitude. À présent, après avoir lu la description, d'après Irénée, de leur pratique et de leur technique d'enseignement, nous devrons tout d'abord être capables de voir comment il se fait qu'il soit capable de faire basculer les pensées des gens de la vérité vers l'erreur. C'est parce que, les ignorants, tels qu'Irénée les appelle, ils n'aiment et connaissent pas la vérité. Ils s'ouvrent donc eux-mêmes à l'erreur. Ceci me rappelle une sœur qui, il y a des années, avait dit, du moment que je n'aime et comprend pas, je n'aime et puis être tenu pour responsable, mais elle fut repoussée par mon bon ami qui lui a dit, bien au contraire, ma sœur, vous êtes responsable, vous auriez donc dû en savoir mieux. Combien de gens insensés vont essayer de tordre les paroles de frère Branham? Les unitaires croient qu'il est ster trinitaire, tandis que les trinitaires croient qu'il est ster unitaire. Les autres essaient de lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites, et certains déclarent qu'il a enseigné que vous n'avez pas besoin de comprendre. Il vous faut tout simplement croire. Il nous a explicitement enseigné que seuls les élus vont comprendre. Car comment pouvez-vous croire sans connaître ce que vous croyez? Maintenant, j'espère que vous comprenez combien il est important de connaître la vérité, car la vérité vous rendra libre. Non seulement vous devez connaître la vérité, mais vous devez également l'aimer, car si vous n'aimez l'aimez pas, c'est là même que vous vous placez en position d'être séduit. De Thessaloniciens 2, 10-12, 10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Et ici, nous voyons donc que puisque qu'ils n'ont pas d'amour pour la vérité, Dieu lui-même va leur envoyer le puissant égarement qui leur fera quitter la vérité. Or, si vous pensez pendant une minute que vous êtes plus que capable de résister contre ce que Dieu envoie, vous auriez mieux de n'aimer pas faire l'imbécile. Dieu surveille toujours votre attitude. Rappelez-vous, il connaît même tes pensées les plus profondes. Et il te faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Sinon tu t'exposes toi-même à la séduction. Et Timothée 4, 1-2, un paragraphe mais l'Esprit dit expressément que, Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, deux par l'hypocrisie de faux docteurs ou disons des mensonges par hypocrisie, Darby, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ce sont des mensonges hypocrites, car ils en savent mieux, mais ils refusent d'enseigner la vérité. Les Écritures Néhémie nous disent pas que quelqu'un abandonnera une foi quelconque, mais elles disent, la foi, et nous savons que cette foi vient d'une révélation. Éphésiens 4 nous dit, il y a un seul Seigneur et un seul foi aux révélations, et nous savons par l'Écriture que cette seule révélation Esther la révélation de Jésus-Christ. En conséquence, cette séduction devra être en rapport cette seule vraie révélation. En outre, elle viendra par l'entremise des doctrines de démons. C'est Esther pourquoi cette doctrine sera l'erreur concernant la divinité et c'est Esther ça qui produira l'erreur dans le peuple. En d'autres termes, comme il en était autant d'Élie, les faux ministères de ce jour-là avaient réussi à amener le peuple d'Israël à adorer Dieu d'une mauvaise manière et ceci étant, adorer Dieu en dehors de la vérité, c'est Esther en fait adorer d'autres dieux. C'est Esther pourquoi ils avaient adoré Baal, ce qui en fait signifie Seigneur. Ainsi, quand ils parlent d'adorer le Seigneur, si leur adoration Esther basée sur une compréhension erronée, ils sont en fait en train d'adorer un faux Seigneur, et ce qui est Esther malheureux, c'est Esther que même Néhémie le savent même pas. Mais vont-ils ouvrir leur cœur pour écouter? Jamais. Car Jésus a dit que la raison pour laquelle ils n'aiment ils voudront pas recevoir la vérité Esther qu'en eux. Ils n'ont pas de place pour la vérité. Irénée a mentionné que l'enchaînement incorrect des Écritures donnera une fausse présentation du seul vrai Dieu en conséquence. Ça présentera un Seigneur perverti. Dans Jean 4, 22. Jésus a dit, les païens adorent ce qu'ils n'aiment ils connaissent pas et il a dit, mais nous savons ce que nous adorons. Et c'est ça la clé. Il vous faut le connaître, lui que vous adorez, sinon vous ferez naufrage dans votre incrédulité. Plus loin, il a déclaré, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ainsi donc, sans la vérité, votre adoration est vaine. Vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité. L'adoration sans la vraie révélation, elle est satanique, et Dieu Néhémie va pas révéler quoi que ce soit sans que cela vienne par son prophète. En conséquence, toute révélation qui vient en dehors du canal confirmé de Dieu, elle fait partie de cette puissante séduction. Dans 1 Jean 3h12, nous voyons que Caïn a tué son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il n'y Esther pas dit que la tuerie elle-même Esther ce qui était mauvais. Mais la raison pour laquelle il a tué son frère Esther, que ses propres œuvres étaient mauvaises. Et quelles étaient ses œuvres? Son offrande à Dieu sans une révélation confirmée. Il a offert une offrande de prémice, premier fruit, ce qui était parfaitement scripturaire. Et en fait, c'était une offrande de résurrection, mais c'était hors saison. Et ça Néhémie veut pas dire qu'il n'en savait pas mieux. Il a donné le nom d'Enoch à son fils premier-né, et c'est Esther c'est le nom du premier saint à être enlevé. Mais la révélation de Caïn, et par conséquent son offrande, était jugée mauvaise parce que ce n'était pas la révélation pour cette heure-là, et en fait, la révélation avec laquelle Dieu était lui-même descendu. Si vous avez bonne mémoire, l'Éternel était descendu avec un cri dans le jardin d'Éden. Et qu'avait-il révélé à Adam à travers ce cri ou message? De savoir que puisque le sang du serpent s'était mélangé avec le sang d'Ève, alors il faut que le sang soit exigé comme expiation, et Caïn a refusé le message confirmé de Dieu et la révélation pour cette heure-là. Dans Genèse 4, 7. Après, nous voyons que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Il a dit à Caïn, si tu fais bien, Néhémy, serais-tu pas agréé?
Darby.
Le Septuagint prend ça comme ceci, si tout fait bien.
Néhémy, serais-tu pas agréé?
Tu as offert correctement, mais tu n'as pas dispensé,
divisé, correctement.
Remarquez quelle grande importance Dieu place dans le fait de dispenser,
diviser, correctement sa parole.
La révélation de Caïn fut rejetée et jugée mauvaise parce qu'il n'avait pas divisé la parole de vérité correctement.
C'est pour cette raison que nous voyons, dans Galates 1 et dans 2 Corinthiens 11,
Paul parle si sévèrement au sujet des gens qui se sont levés avec n'importe quelle vieille chose.
Il a dit que ça faisait qu'il prêchait un Jésus complètement différent,
et que les Écritures, qui étaient présentées d'une manière tellement pervertie qu'elles ont pris notre nature, et en conséquence cela a apporté un esprit complètement différent.
Et c'est ce que Irénée a montré dans son illustration des hommes qui fabriqueraient une image d'un chien ou d'un renard, et qui les feraient passer aux ignorants pour l'image d'un roi.
Vous parlez d'ignorance. Comment pouvez-vous confondre un chien avec le roi de gloire?
Et pourtant,
c'est ce qui est arrivé.
Tout récemment, un prédicateur de renommée mondiale était en train d'enseigner une compréhension erronée de la plénitude de divinité dans l'épouse.
Et on a posé la question à un jeune homme qui était en train de l'écouter, « Qui dites-vous qu'Esther l'épouse ?»
Cette personne a répondu, « L'épouse Esther Dieu. »
Je suppose que si vous pouvez amener les gens à croire qu'ils sont Dieu lui-même, alors vous arriverez à leur faire croire qu'un chien est réellement le roi.
Quel gâchis!
Quel délire!
Mais Dieu lui-même a promis qu'on y arriverait.
Il n'y a que les élus mêmes, qui Néhémie seraient pas séduits.
Jésus nous a avertis, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, Luc 8:18.
Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, Luc 6:38.
Et il a pareillement dit à la semence du serpent qu'il comblait la mesure de leur père.
Ensuite il leur a dit, vous faites ce que vous comprenez à travers votre père.
Et je n'ai mis dit que ce que je comprends que mon père a dit.
Ainsi, ce dont nous traitons ici est une certaine disposition de la pensée, qui est appliquée.
Pharaon a regardé au travers de la même fenêtre que Moïse.
Il n'a vu que des faiseurs des briques.
Moïse a vu les enfants d'une promesse.
Par conséquent, ces hommes à travers leur méthode d'enseignement, et par la manière dont ils enchaînent les écritures et les citations, ils sont en train de présenter l'erreur dans sa difformité nue.
Les ignorants, c'est l'Odyssée paresseux,
qui n'aiment ils voudront pas examiner la parole pour eux-mêmes.
Ils croient ce qui leur est renseigné sans pour autant le vérifier.
Et pourtant, une fois que ces élus-là s'avancent pour apporter la vérité, la révélation de Jésus-Christ, qui déclare qu'il est ici, ces mêmes gens qui sont spirituellement paresseux, ils considèrent ceux qui ont la vérité comme s'ils étaient des marginaux qui ont un mauvais esprit.
Jésus, l'auteur de la vérité, n'était-il pas autant qualifié par les incroyants de son jour qu'il avait lui aussi un mauvais esprit?
N'était-ce pas notre Seigneur qui avait pas été mis hors de l'Église dans ce jour-ci?
Et il se tient à la porte.
Il est en train de frapper.
Alors, si on nous colle la même étiquette, cela n'est mis fait que nous placer en bonne compagnie du Seigneur.
Le Seigneur Jésus a dit, « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ?»
Et nous voyons donc ceci se répéter dans l'Oméga.
Irénée a dit, « Je tiens à cœur de présenter les discours du Seigneur, de sorte que ces gens puissent non seulement être dépourvus des moyens de nous attaquer, nous qui croyons en vérité, mais que, comme ils seront raisonnablement incapables de répondre à ces questions que je vais poser, ces gens verront leur plan d'argument être détruit.
Et mes espérances, en faisant cela, sont qu'ils puissent revenir à la vérité, et qu'ils puissent s'humilier et qu'ils puissent arrêter leurs rêves,
qu'ils puissent demander pardon à Dieu pour ces blasphèmes qu'ils ont proférés contre lui,
et qu'ils obtiennent le salut, ou encore, s'ils persistent dans leur système de vaine gloire qui s'estère emparé de leurs pensées, qu'ils puissent au moins juger cela nécessaire de changer le genre de leurs arguments contre nous. 2 Jean 8-9. Prenez garde à vous-même, afin que vous n'ayez perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin et n'ayez demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Je vais maintenant exposer la manière dans laquelle nous allons examiner ces doctrines qui se sont écartées de la vérité. 1. Nous allons examiner les principes de leur doctrine ainsi que leurs pratiques. 2. Nous allons essayer de vous exposer comment ils pensent et comment ils enseignent. 3. Nous allons prouver qu'il y a longtemps qu'ils ont dévié de la vérité et nous allons attentivement 4. Remarquer les Écritures qu'ils déforment dans l'intention de les adapter à leur propre fiction. 5. Nous allons vous faire connaître qui sont la descendance de cette doctrine. 6. Nous allons expliquer la nature de leur rédemption, car après tout, la nature de leur rédemption est liée à leur doctrine. 7. Nous allons prouver qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur, et qu'il n'y a rien ni au-dessus de lui, ni après lui, et il n'est non plus influencé par personne, si ce n'est que par son bon vouloir. Il a créé toutes choses. Depuis toujours il est l'unique Dieu, le seul Créateur, le seul Père, tout seul. Il contient toutes choses, et lui-même, il a commandé toutes choses à venir à l'existence. 8. Nous allons vous montrer les jugements de ceux qui retiennent ou qui suppriment la vérité dans l'iniquité, le manque de sagesse juste. Commençons par examiner le point numéro 1. Ici, nous allons systématiquement examiner ces doctrines, leurs sources et le raisonnement qui se cache derrière eux. Pour mener à bien notre analyse, il nous faut premièrement comprendre comment pensent et enseignent ces hommes qui professent de telles choses. Comme vous le savez, Jésus nous a avertis dans Marc 4, 24 sur le fait d'être attentif à la manière dont nous écoutons. Pour paraphraser ces paroles en sorte que vous puissiez mieux les comprendre, voici ce qu'il est en train de dire. Prenez garde à la manière dont vous entendez. Car l'instrument de mesure que vous utilisez pour mesurer cela, ça reviendra à votre entendement par le même instrument. Souvenez-vous, l'arbre tombe du côté où il se penche. Et ceci étant, nous sommes avertis de prendre vraiment garde à la manière dont nous abordons la parole de Dieu. Paul a dit, il devait laisser tomber ce qu'il pensait avoir connu auparavant quand il a rencontré la colonne de feu face à face. Et de ce fait, il nous faut oublier tout ce que nous connaissons et comprenons, même notre façon d'aborder la parole de Dieu à la lumière d'un prophète confirmé. En plus, Jésus a même dit aux pharisiens dans Jean 8, 8, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » En d'autres termes, il a dit, « Je n'ai mis fait que ce que je comprends que mon Père a dit, mais vous, vous faites ce que vous comprenez de la part de votre Père. » Or, si vous poursuivez les lectures, c'est bien évident qu'ils n'ont pas aimé ce reproche et le fait qu'ils fassent allusion que leur Père était qu'un qui était la semence du serpent et un fils du diable. Mais c'est exactement ce qu'il a dit. Je comprends ce que mon Père a dit. Par conséquent, je n'ai mis dit que ce qu'il a dit. Mais vous, les gars, vous n'avez mis comprenez pas ce que je suis en train de dire, parce que nous sommes issus des pères tout à fait différents. Ainsi, vous n'avez mis pouvez faire que ce qui vous a été enseigné de faire et vous n'avez mis pouvez réagir que de la manière qui est propre à votre lignée, et par conséquent, vous me rejetez exactement de la même manière que vous rejetez mon père. Nous voyons la même chose dans 1 Jean 3. 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde n'a aimé nous connaît pas, c'est-à-dire qu'il n'a aimé l'a pas connu. Et dans Matthieu 23, 31-33, nous lisons, « Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. 32. Comblez donc la mesure de vos pères. 33. Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? Ainsi, nous voyons un principe très important ici. Ces hommes sont identifiés par Jésus en leur montrant qu'ils sont un avec leur Père et selon lui, ils sont la semence du serpent. Par conséquent, si ces hommes sont la semence du serpent, alors ils penseront comme la semence du serpent. Et si vous êtes la semence de Dieu, vous penserez comme la semence de Dieu, c'est-à-dire à dire, comme Jésus lui-même. Donc, comme Paul l'a dit, que la pensée qui était en Christ soit en vous. Et si sa pensée est en vous, vous penserez les mêmes pensées que Jésus et vous n'émettrez que ce que le Père a dit. Or, la façon de penser de ces hommes Néhémie va pas en continuité avec la façon dont nous avons été enseignés de penser par Moïse, Paul et William Branham, les trois prophètes qui sont venus avec la révélation de Jésus-Christ et qui étaient confirmés par la colonne de feu qui montrait que la présence de Dieu était avec eux. Ces autres hommes voudront que vous croyiez que Dieu est à la fois masculin et féminin de nature et que la partie masculine était celle du Père, mais qu'il y avait une autre partie du Père qui était féminine de nature, et que cette partie, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Cette doctrine a été poussée à un point où ils ont en fait conclu que la plénitude de la divinité est maintenant dans l'épouse et que par conséquent, la position et les fonctions de Père ont été supprimées. Or, ils n'aimeront pas le dire directement comme ça, mais leur façon d'aborder le sujet et les illustrations qu'ils donnent et leur mode d'enseignement, tout cela montre que ça fait partie de leur façon de penser. Ex, trois verres d'eau. Le Père, le Fils et l'Église. Il vide le premier, puis le second, puis il n'émit laisse que le troisième. Ceci sous-entend surtout que Dieu n'est plus que dans l'Église, et qu'il n'est plus un Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham nous a évidemment dit que vous n'émit pouvez pas utiliser cette illustration comme exemple du homorphe, parce que ça n'émit marchera pas. Ainsi donc, nous devons nous demander, quelle est la disposition de leurs pensées et pourquoi pensent-ils et enseignent-ils de telles choses? Et pour répondre à cette question, il nous faut considérer ce que Jésus a fait et alors nous trouverons notre réponse comme lui l'a très certainement trouvée. Comme nous l'avons dit précédemment, Jésus a démontré que la source de leur compréhension, c'était leur Père. L'Écriture nous enseigne d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, 6. Ça marche dans le bien comme dans le mal acquis. Surtout que c'est la loi de l'ensemencement et de la récolte. Et il en est ainsi tant pour le plantage de la semence biologique que pour la semence spirituelle. Si la semence du serpent a des enfants, alors les enfants en question seront une semence du serpent. Si Dieu a des enfants, alors ses enfants seront la semence de Dieu. Mais la question est comment arriverons-nous à identifier qu'une personne est de l'une ou l'autre semence? Et une fois encore, l'Écriture nous enseigne, car il, l'homme, est comme les pensées de son âme ou son cœur. Proverbe 23, 7. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6h45. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a appelé ces hommes semences de serpents car ce qui sortait de leur bouche a identifié qu'ils étaient et qui était leur Père. Or, nous savons que nous vivons dans le jour où le Fils de l'homme devait être révélé, et nous savons que pendant ce temps, le Fils de l'homme est sorti semer de la semence et après qu'il a fini de semer, L'autre geyser allait dans le même champ semer ses semences au point que toutes les deux semences qui ont été semées commencèrent à se manifester. Les deux vignes seront si entremêlées qu'il sera difficile de les différencier l'une de l'autre. Frère Branham nous a enseigné que chaque réveil produit des jumeaux. De même, il nous a enseigné que vous les reconnaîtrez leurs fruits, et il a aussi dit que leurs fruits estèrent leur enseignement de la saison. C'est-à-dire pourquoi l'enseignement de la saison estère ce qui identifie qui vous êtes. Par ce que vous enseignez ou par l'enseignement auquel vous vous identifiez. Voilà qui détermine qui vous êtes. Dans Matthieu 24, 24. Il nous estère dit que les deux seront si proches, que ça séduirait tout le monde excepté les élus. Et comment ceci estère est rendu possible? C'est-à-dire que ces hommes vont utiliser les mêmes paroles que les enseignants corrects utilisent, mais en les déformant. Dans 2 Pierre 2, 1, il nous estère dit qu'ils vont introduire des hérésies destructives au milieu des vraies doctrines. Dans 2 Timothée 4, 1, nous voyons comment ceci amène réellement plusieurs à abandonner la vérité. Nous devons nous poser la question, quelle est-elle la manière de penser de leur père? Quelles étaient ses pensées et pourquoi cela avait-il causé un tel tumulte et une telle guerre dans le ciel au commencement? Pourquoi était-il chassé du ciel avec le un tiers des anges qui l'ont suivi? Jésus, ainsi que Jean-Baptiste, Paul, Pierre, Jude et Jean étant deux pères de l'Église primitive, pourquoi eux tous ont-ils constamment attaqué avec la dernière énergie les opinions des enfants de Satan dans leurs jours? Pourquoi? C'est-à-dire à cause de l'effet que cela avait parmi le peuple. Une apostasie s'est-elle produite dans l'alpha. Cette apostasie est-elle également en train d'avoir lieu maintenant dans le ministère oméga de Christ? Pourquoi Lucifer était-il tombé? Pourquoi avait-il été chassé du milieu des frères dans le ciel? C'est-à-dire parce qu'il avait essayé de se faire égal à Dieu alors qu'il n'y était pas. Osée 14, 12-14, te voilà tombé du ciel, astre brillant ou Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. 13 Tu dis en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. 14 Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et alors, pourquoi Esther est-il arrivé à avoir cette haute considération sur lui-même? Qu'y avait-il dans cet ange qui l'exalterait au point de penser qu'il pouvait être égal à Dieu? Dans Osée 14, nous voyons Lucifer se vanter de la manière dont il voulait prendre un poste auquel Dieu l'avait oint, à une position où il s'était lui-même élevé. Il voulait être semblable au Très-Haut. Il s'enfla d'orgueil. Voir l'étude sur la divinité, le Fils de Dieu, Christ, comme nous le voyons dans Apocalypse 3:14. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, il vint de Dieu comme Fils premier-né de Dieu. Ensuite, Dieu continua à créer toutes choses par lui. Colossiens 1:16 car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est terre avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Par conséquent, la première chose qui est terre apparue, c'est la vie. La vie de Dieu sous la forme d'un fils. Jean 5:26 car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. L'aurore du commencement. Psaume 36:9 car auprès de toi est-elle la source de la vie. Par ta lumière nous voyons la lumière. Dieu, après s'être donné un fils, il se mit à créer les chérubins, les séraphins, et les anges. Puis nous voyons Lucifer être le premier être à être créé et il est appelé, dans Ésaïe 14, 12 et 16, Lucifer, le fils de l'aurore, et bien entendu, Lucifer était un chérubin et il avait été oint par Dieu lui-même. Ézéchiel 28, 12-15 Tu étais un chérubin oint, et je t'avais établi tel. Voir aussi Darby, E40 montre-nous le Père 54-08-1 Tout ce que Dieu était, était mis en Jésus-Christ. Il était colossien égal avec le Père. Esther ce vrai? Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. E36 Le commencement et la fin de la dispensation des païens 55-0109 Et en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef. Michaël était Christ? Bien sûr. C'est Esther lui qui avait combattu les guerres angéliques dans le ciel contre le diable. Satan et Michaël se sont battus ensemble, ou ils se sont battus l'un contre l'autre, plutôt. Et alors? Et en ce temps-là, il a dit, en ce temps-là, ceux qui furent trouvés inscrits dans le livre furent sauvés, et ceux qui avaient pratiqué la justice. Observez ceci. E12 Job. Le serviteur de Dieu 55-0223 Mais Dieu en mettant Satan à peu près colossien égal à lui, Satan a pris les choses de Dieu et les a perverties en de mauvaises pensées, et à travers cela, il commença à pervertir les bonnes choses en de mauvaises choses. Et Dieu, aussitôt que la première chose fut faite, dans sa poitrine de grand trésor d'amour, il avait le plan de la rédemption, aussitôt. E13. Or, je crois que le je n'y crois pas que Satan Esther un créateur. Je crois que Satan Esther un pervertisseur, mais pas un créateur, parce que Dieu Esther le seul qui puisse créer. Et au commencement, quand il Esther devenu un colossien partenaire à Dieu, le fils de l'aurore, et tout le reste, quand il a marché sur les pierres étincelantes, et tout le reste, en sorte que, quand Satan a perverti le bien mal acquis, vous savez, pervertir pour faire quelque chose. Ézéchiel 28, 12 Nous lisons ici, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu mettais le cachet, le signe, le modèle, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. 13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparé pour le jour où tu fus créé. 14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, en d'autres termes, tout ce qu'il avait lui avait été donné par Dieu et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. 16 Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. 17 Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. 18 Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. C'est ici que réside la merveille de tout cela. Lucifer était la première création de Dieu. Il était oint par Dieu. Oint galmimshak, oindre. Dans ce sens, ça sous-entend une élévation. En d'autres termes, Dieu lui a donné un poste élevé. Et que couvrait-il? Certains disent qu'il couvrait le propitiatoire. Mais étant donné que nous n'avons pas ainsi dit le Seigneur sur cela, nous allons laisser cela tel quel. Mais nous savons en réalité qu'il conduisait les anges dans l'adoration, lui et Michaël. Exode 25, 18, 19, 22. Or, nous savons que Moïse a vu ce propitiatoire, trône de miséricorde, dans une vision, qui montrait comment c'était dans le ciel. Hébreux 8, 5. Ce qui est stère, Exode 25, 40. Remarquez plus loin que Lucifer était plein d'éclat égal Ifa, splendeur, resplendissement, éclat. Ce mot dérive de la racine du mot qui décrit la magnificence de Dieu. Psaume 50, 2 et commercial, Psaume 102, 4 et si pareillement, nous voyons Satan comme une lumière brillante et éclatante. Cor 11, 13-15, Luc 10h18. Dieu le décrit ici comme un chérubin qui couvrait et nous savons que d'après Hébreux 8, 5. Quand Moïse avait reçu l'ordre de faire l'arche de l'Alliance, il devait le faire d'après le modèle qui lui était montré la montagne. Ainsi donc, nous voyons que le modèle était établi avant l'encadrement du monde, depuis très longtemps, quand il y avait deux chérubins, des jumeaux qui conduisent les anges dans l'adoration, et d'après frère Branham, l'un était Christ et l'autre Lucifer. Nous voyons donc que, comme il avait été fait sacrificateur, il s'était renflé d'orgueil, au point où il en était arrivé, et il s'éleva lui-même, pour être égal à celui qui lui avait ordonné de conduire les anges dans l'adoration. Et s'estère ainsi que cela s'estère répéta à travers les âges. Corée et Dathan étaient eux aussi des sacrificateurs lévites, et ils se sont enflés pareillement, et ils ont voulu que leurs opinions soient écoutées au même titre que celles de Moïse, celui-là même que Dieu avait confirmé. Et au temps de Paul, nous voyons la même chose se répéter. En effet, ça n'est mis peu que se répéter dans tous les âges de l'Église, parce que partout où il y a eu des jumeaux, il y a eu cette exaltation qui leur a fait penser qu'ils peuvent adorer Dieu en dehors du seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu, l'adoration qui se fait par la révélation confirmée. Apocalypse 12, 3-11. Ici, nous voyons quelques autres attributs de l'auteur de cette semence corrompue. Numéro 1 au verset 3. Nous voyons que sa queue entraînait le tiers des étoiles. Numéro 2. Il nous estère dit qui estère ce dragon. Il estère appelé le diable ou Satan. Et il estère aussi appelé un séducteur au verset 9. Numéro 3. Enfin, nous voyons qu'il y a d'abord eu une guerre dans le ciel. Et que c'était avec Michaël. À présent, examinons ces trois points. Numéro 1. Il estère appelé séducteur et il a entraîné le tiers des étoiles avec sa queue. A. Un séducteur, du grec planao égal s'égarer, se tromper, emmener loin de la vérité. Matthieu 24, 4, 5, 11, 24. 2 Timothée 3h13, Hébreux 3h10, 2 Pierre 2h15, 1 Jean 3, 7, F 4h14, 2 Tachès 2h11, B. Entraîné, suro. Sester un mot grec qui signifie filet. Jean 21, 8. Le filet de l'évangile Esther un type de jeter le filet de la parole sur les mers de l'humanité. Et Jésus nous en a donné la parabole, quand il nous a dit que ce qui est Esther corrompu sera jeté dehors. C. Que, Esaïe 9h15, ainsi. Nous voyons ici que cette queue, c'est Esther le mensonge qu'il avait raconté. Il les a donc entraînés par ce qu'il avait dit. D. Étoile, Job 38, 7, Psaume 148, 3. Esaïe 14h13. Il se dégage donc que Satan vint sur la scène et que, de toute évidence, il était un prédicateur dans le ciel. Le saviez-vous? Au paragraphe 77 du Dieu de cet âge mauvais, il est dit, remarquez, Satan n'est pas appelé le Dieu d'un autre âge en dehors de cet âge-ci. C'était son ambition d'être comme Dieu depuis le tout début. Lisons cela. Nous allons prendre notre temps. Faisons un recul. Voyons. J'ai mentionné cela. Ésaïe 14. Retournons ici dans Ésaïe 14. Juste une minute et voyons ce que Dieu a dit que le Dieu, ce que Satan a fait. Ésaïe 14.12 et 14. Remarquez. Quoi donc? Tu es tombé du ciel? Ô Lucifer! Fils de l'aurore! Tu as été précipité à terre? Toi! Le vainqueur des nations! Car tu dis en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Fils de Dieu! Donc, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. 78. C'était l'ambition de Satan d'être adoré comme Dieu. Il a entraîné les deux tiers des étoiles du ciel. Il s'est élevé lui-même au-dessus de ces étoiles. Et il leur a prêché. Et en a séduit deux tiers. Voyez-vous cela? Très bien. Remarquez. C'était là son ambition. Et maintenant il est prêt avec son épouse minutieusement choisie et enseignée selon sa propre connaissance, voyez? Toute peinte de sa séduction qui consiste en de grands bâtiments et de grandes dénominations, le vernis de la connaissance, la théologie, l'intelligence, l'intellectualisme, l'instruction pour séduire le monde entier et devenir un dieu, c'est-à-dire ce qu'il a fait. Tout aboutit à la personne de l'Antichrist, qui est déjà couronné vicaire de Dieu par son épouse scientifique, aimable selon le monde, qui est tout habillée avec pompe d'une instruction intellectuelle religieuse. Elle est religieuse comme lui, et cela, par sa propre interprétation de la parole de Dieu, comme il l'avait fait pour Ève, et comme son fils Caïn l'a fait. 79. Eh bien, vous dites, le fils de Satan? Montrez-moi un seul passage de la Bible où Caïn ait jamais été appelé fils d'Adam. La Bible dit qu'il était le fils du malin, la semence du serpent. Non. Le capuchon Esther maintenant ôté. Frère. La pyramide Esther ouverte. Comme la révélation l'a montré. 80. Observez ce qu'il fera. Ses pensées. Il pensait que Dieu résidait dans la beauté du monde. C'est-à-dire ce qu'il fit au ciel. Le péché n'a point commencé dans le jardin d'Éden. Il a commencé au ciel lorsque Lucifer, le fils de l'aurore, s'est élevé lui-même dans la beauté et voulait avoir un royaume plus beau que celui de Michaël. Et il pensait que Dieu était dans la beauté. 81. Et remarquez qu'un. Il n'aimait voulait pas le sacrifice du sang. Il est venu et a offert sur son autel le fruit, ou les beaux produits de champ. Il était très religieux. Il a fait tout ce que, exactement comme Abel, il a offert un sacrifice. Il s'est prosterné devant Dieu dans l'adoration, obéissant en tout, mais sans la révélation de la parole. Et la parole était depuis le commencement le plan de Dieu. Mais Dieu a révélé par la révélation la chose même, qu'il a confirmé et ponctué que c'était la vérité, pas la religion, pas un autel, pas le fait d'être membre d'église, pas le fait d'offrir un sacrifice, pas le fait d'être sincère, mais par la révélation de la parole de Dieu. E17 le sceau de l'Antichrist 55-031 si vous prêtez attention. À peu près au moment où Jésus est revenu sur la scène, Judas est revenu sur la scène, l'Antichrist, celui qui était contre Christ. J'aimerais que vous remarquiez la nature des deux esprits maintenant. Judas était un homme religieux. Il n'était pas un incroyant. Et nous tous, nous savons qu'il était l'Antichrist. Il a œuvré comme étant le plus proche bras droit de Christ, son bras droit. Saviez-vous qu'au ciel Satan était le bras droit de Dieu au commencement? Ce Lucifer, le fils de l'aurore, la puissance lui fut donnée? Et la raison pour laquelle il a amené le péché dans le monde? Il était capable de prendre quelque chose que Dieu a créé, et de pervertir cela de nouveau en une chose mauvaise? Ce qui a commencé tout ce trouble au commencement. Alors Dieu, là en arrière avant que les fondations du monde eût jamais été posées, quand il a vu ce que Satan avait fait, dans sa fierté, il Esther allé au nord, et il a établi un royaume, et il s'Esther battu contre Michaël et ses anges. Voyez-vous cela? Paragraphe 18. Le bras droit de Dieu était Lucifer, le fils de l'aurore. Le premier, Dieu lui avait accordé d'être à peu près colossien ouvrier avec lui. Il était un colossien ouvrier, partiellement égal à lui. Seulement, Satan et Émi pouvaient pas créer. Dieu Esther le seul créateur, mais Satan a pris quelque chose que Dieu a créé lui. Il a perverti ça en quelque chose d'autre, le Malachi. Et maintenant remarquez, quand Cain et Abel, une très belle image de cela, Cain et Abel n'étaient rien de plus que la préfiguration de Jésus et Judas. E28 L'agneau et la colombe 57-0325 Et le Saint-Esprit tombe dans une réunion. Et parfois, le croyant et l'incroyant adorent par le même esprit. Mais les fruits de l'esprit prouvent qui vous êtes, waouh! Pas la réaction de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, ce ne sont pas les démonstrations extérieures. C'est Esther une œuvre intérieure de la grâce. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la gentillesse, la patience. Vous y êtes. E39 La reine de Séba 60-0710 Vous savez, les grandes choses brillantes, ce sont elles qui aveuglent les yeux du peuple. Ève était à la recherche d'une nouvelle lumière. Elle l'a obtenue. La Bible dit que dans les derniers jours les démons seraient, se transformeraient eux-mêmes en prédicateurs de lumière. Regardez le tout premier péché qui a été commis, était que Satan voulait un royaume plus grand, plus brillant, quelque chose de plus brillant. Et il Esther allé au nord et il a établi son propre royaume de manière à dépasser celui de Michaël. Ça a toujours été ces choses brillantes. E21 Le sceau de Dieu 61-02 Ainsi Adam était le fils de Dieu. La Bible le dit. Alors d'où est-elle venue cette jalousie? D'où est-elle venue ce meurtre? D'où est-elle venue tout ce genre d'esprit? D'Adam? Ça ne pouvait pas se faire. Ça venait de Satan. C'était exactement de là que ça venait. Nous découvrons donc qu'il est Esther le premier meurtrier. Il était le tout premier à avoir de la jalousie. Et Lucifer fut jaloux de Michaël. Il a amené ici-bas sur la terre. Puis il a transféré ça dans l'homme. Et Satan. Cain en acceptant ce Malachi. Il prit la première marque. Dieu l'a marqué. Personne n'aimait devait le tuer. Laissez-le tranquille. Mais, rappelez-vous, aussitôt qu'il l'a marqué, il a quitté la présence de Dieu. Retenez cela maintenant. 58-172-QR64-0823M Satan était l'ange le plus beau. Il était un chérubin qui couvrait. 1132-319-COD-QR64-0830 Or, si vous prêtez bien attention, il y a toujours eu des jumeaux. Il y avait. Cain et Abel étaient des jumeaux, et Esaü et Jacob étaient des jumeaux. Jésus et Judas étaient issus de la même tribu et ils étaient dans la même église. Et voire même le Saint-Esprit et l'Antichrist doivent être des jumeaux. si proche qu'il séduirait les élus si possible. Avez-vous saisi cela? Très bien. Le mariage et le divorce 65-021. Saviez-vous que Satan était un jour colossien égal à Dieu? Assurément. Il était tout sauf un créateur. Il était tout. Il se tenait à la droite de Dieu dans les cieux. Un grand chérubin conducteur. À présent nous devrons voir comment ces hommes pensent-ils et pourquoi pensent-ils comme ils le font. Et de ce fait, pourquoi leur doctrine attire les gens vers eux-mêmes et les éloigne de la vérité sur la divinité? Comme je l'ai dit précédemment, après avoir entendu les gens enseigner cette doctrine, la plénitude de divinité Esther maintenant dans l'épouse, quand on a posé la question, qui Esther l'épouse? Un membre laïque a répondu, l'épouse Esther Dieu. Or, je sais que ces hommes qui enseignent ceci sont tellement astucieux qu'ils n'y viendront pas vous dire directement qu'ils sont Dieu. Mais ils le font en déformant les paroles des Écritures et celles de William Branham, en retirant de petites citations de leur contexte. Ils enseignent ces choses aux gens sans pourtant le dire ouvertement. On découvre du pudding en le mangeant. Et comme Paul l'a dit, nous n'avons pas besoin d'une parole écrite de condamnation. Car les gens sont une manifestation de ce que nous prêchons. Je suis d'avis qu'il y a des foules mélangées, qui suivent le message de William Branham. De même qu'il en était pour Moïse et Paul. Frère Branham nous a enseigné qu'il y a trois sortes de croyants dans chaque église. Certains prendront la vérité et vont la tordre complètement, sans tenir compte de combien vous essayez de la présenter avec précision. Mais quand les gens commencent à se faire eux-mêmes Dieu et qu'ils font de Dieu une personnalité mixte, en partie masculine et en partie féminine, nous allons alors dire que nous sommes complètement revenus à la case de départ, parce que c'est exactement ça l'erreur qu'Irénée a réprimandé sévèrement à la fin du premier âge de l'Église. Étant donné que frère Branham nous a dit que tous les faux enseignements tirent leur origine dans Genèse, il est donc évident que c'est bien là que nous devons commencer. Maintenant, concernant la fausse doctrine du Saint-Esprit femelle, ceux qui enseignent cette doctrine commencent par vous ramener au commencement même, quand l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face de la terre. Genèse 1:2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. De la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Or, ce qu'ils font de cette écriture si Esther qu'ils regardent cette scène, et ce faisant, nous voyons la première fois que Dieu commence à se manifester, sous une certaine sorte de manifestation. Ici, ils utilisent une citation de frère Branham pour confirmer qu'en vérité, ça, c'est une métaphore dans laquelle Dieu s'est lui-même manifesté avant la création du monde sous la forme d'une colombe. Ceux qui ont apporté cette doctrine aux églises du message ont tenté d'utiliser les paroles de frère Branham lui-même pour confirmer ce qu'ils disent. Ainsi, ils utilisent les citations suivantes en les déplaçant de leur contexte. E54 Limitation du christianisme 57-01-7. Longtemps en arrière, au commencement, quand Dieu avait mandaté le Logos, lequel était le Fils de Dieu sorti du sein du Père, il avait commencé à couver la terre, a dit la Bible. Qu'est-ce que le mot couver? Que signifie-t-il? Comme être une mère, comme la poule, sa couvée s'est rappelée ses poussins, sa progéniture. Et le Saint-Esprit, comme il était en train de couver, avec ses bras ou ses ailes, une terre morne, là où il n'y avait jamais eu de vie. Et alors qu'il s'est mis à couver, les eaux se mirent à se séparer, et la terre ferme fit surface. Remarquez que frère Branham parle d'un fils qui n'est pas une femelle, et cependant il dit que ce fils commence à couver comme une mère poule couve ses poussins. En aucune façon je vois frère Branham dire qu'il y avait un rôle féminin en train d'être joué là. Il utilise tout simplement la même illustration que Jésus a utilisée pour les gens de Jérusalem, comme nous le verrons plus tard dans cette étude. Or, il continue avec la pensée du Saint-Esprit comme la colombe, et il continue à établir que la colombe est toujours considérée comme une femelle. Genèse 8:8-9. 8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. 9 Mais la colombe Néhémie trouva aucun lieu pour poser la plante de son, en anglais, heure, pronom possessif dont le possesseur est féminin, pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Finalement, ils prennent le cas de Jésus lui-même pour faire en sorte que ceci soit comme si ça avait un fondement scripturaire. Dans Luc 13:34, il est en tout cas en train d'utiliser une métaphore ou une illustration. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous Néhémie l'avez pas voulu. Or, nous savons très bien que cette parabole ou illustration Néhémie doit en réalité pas être prise au sens littéral tel qu'elle a été dite. Si ceci est vrai, pourquoi alors Jésus a-t-il dit dans Matthieu 13:10-17 que la raison pour laquelle il utilisait des paraboles était que seuls les élus comprendraient que tous les autres seraient abandonnés à leur propre sort. Or, la théologie libérale prend les paraboles et les métaphores mot pour mot comme il les a dites. Et si nous sommes aussi libéraux dans notre doctrine comme ces hommes doivent l'être, alors nous trouverions que Jésus disait littéralement à tout le monde qu'il était une femelle, et qu'en réalité, il était un genre d'une poule mère gigantesque. Pas étonnant que Rush Limbaugh ait l'impression qu'il peut combattre les libéraux avec une partie de son cerveau attachée à son dos. Ça se rapportait à la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Jésus n'a jamais dit qu'il était une mère des poussins. Il a dit, comme une poule rassemble ses poussins, c'est de cette manière que lui aussi voulait faire. Or, avec leur doctrine établie par ces simples métaphores prises littéralement, ils se mettent alors à examiner les autres fois que cette colombe femelle apparaît. Et en fait, alors qu'il est stère, ils ont l'impression d'avoir décidément établi qu'une colombe représente des attributs féminins. Et de ce fait, nous voyons alors qu'ils commencent à déclarer qu'en fait, la colombe représente les attributs féminins, et qu'en outre, la colombe représente le Saint-Esprit. Ils prennent encore les Écritures et ils les tordent de manière à affirmer cette théorie. Matthieu 3:16-4:1 Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est Esther, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Ici, nous voyons jusqu'où ils étirent la vérité. Les Écritures disent clairement que le Saint-Esprit est revenu comme une colombe. Elles ne disent pas que c'était une colombe qui était descendue, mais elles disent, de la même manière qu'une colombe ou comme une colombe descendrait. En d'autres termes, Esther descendit très doucement et très lentement sur lui. Et même si ça avait une forme semblable à celle d'une colombe, où est-ce le problème? Mais, Esther également étrange que ces mêmes hommes admettent que c'était la voix du Père qui avait dit, « Celui-ci est Esther, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À ce moment, il conclut que Esther ici que l'Esprit de Dieu Esther scindé en deux, et que les attributs féminins de Dieu sont descendus. Mais s'il en Esther ainsi, alors pourquoi croit-il que cette voix qui a parlé Esther celle du Père, car il a absolument dit, « Celui-ci est Esther, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » En conséquence, si c'est Esther réellement la voix du Père, alors c'est Esther à ce moment précis que le Père Esther est venu habiter dans son fils. Non pas la mère, mais le Père. Or, pour moi, c'est Esther une preuve qui montre à suffisance que ces hommes Néhémie ne comprennent pas la divinité. Maintenant, à ce stade, nous voyons que ces hommes utilisent la colombe comme point central pour déclarer que Dieu a pour ainsi dire envoyé la partie femelle de lui-même, qui est Esther représentée sur la terre sous la forme d'une colombe, mais qui est Esther appelée le Saint-Esprit. Au paragraphe 264 du seul lieu d'adoration pourvu par Dieu, frère Branham a dit, « Pas de levain parmi vous, qui amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. » Ainsi, nous voyons par cette déclaration que c'est Esther au milieu de ceux qui Néhémie se marie pas au levain que la plénitude de la divinité arbitra. Mais ceux qui doivent se marier à du levain du genre de ces doctrines blasphématoires, ils Néhémie peuvent en aucun cas comprendre cette plénitude qui est Esther au milieu du peuple. Maintenant, en considérant ce levain qu'il présente sous forme de colombe et sous forme d'attribut féminin de Dieu, faisons une rétrospective dans l'histoire et voyons où ceci puise-t-il sa source. Dans les deux Babylones de Hyslop, page 79-80. Nous lisons. Juno, le nom de la reine du ciel romaine, qui a tout à fait cette même signification, est sous la forme d'une colombe aussi bien que sa propre forme, elle était adorée par les Babyloniens. La colombe. Le symbole choisi de cette reine déifiée. Esther généralement représentée avec une branche d'olive dans sa bouche. Comme elle-même dans sa forme humaine. On la voit en train de tenir une branche dans sa main. Et, à partir de cette forme qui la représente, il est Esther fort probable qu'elle ait dérivé le nom par lequel il est Esther communément connu. Car Semiramit signifie celle qui porte la branche. Une fois que la déesse fut ainsi représentée comme une colombe avec une branche d'olive, il n'y a aucun doute que ce symbole faisait en partie référence à l'histoire du déluge. Mais ce symbole signifiait plus qu'un simple mémorial de ce grand événement. Une branche, comme démontré précédemment, était le symbole du fils déifié. Et quand la mère déifiée fut représentée comme une colombe, quelle serait la signification de cette représentation si ce n'est Esther de l'identifier à l'esprit de toute grâce, qui couvait, comme une colombe, sur la profondeur de la création? Car dans les sculptures de Ninive, comme nous l'avons vu, les ailes et la queue de la colombe représentaient le troisième membre de la trinité idolâtre des Assyriens. Pour confirmer ce point de vue, nous affirmons que le Juno assyrien, ou la Vierge venue, comme on l'appelait, était identifié à l'air. Esther ainsi que Julius Firmicus dit, les Assyriens, ainsi qu'une partie d'Africains, souhaitent que l'air ait une suprématie d'éléments, car ils ont consacré ce même élément sous le nom de Juno ou la Vierge venue. Pourquoi l'air était-il ainsi identifié à Juno, dont le symbole était sa troisième personne de la Trinité syrienne? L'unique raison est Esther quand qu'elle dit, le même mot qui signifie hier, signifie aussi le Saint-Esprit. En conformité avec son caractère, rôle de Juno en tant qu'incarnation de l'Esprit divin, la source de vie, et également en tant que déesse de l'air. Comme Juno, la colombe, en d'autres termes, le Saint-Esprit incarné. Et qu'Esther ce que la soi-disant épouse Esther en train de faire aujourd'hui. Elle tente de se faire adorer comme étant le Saint-Esprit incarné. J'espère que vous pouvez tous voir d'où vient tout ceci et là où ça se dirige. À la page 303 de Les deux Babylones de Hyslop, nous lisons une fois de plus. L'orientation de tout ceci, sur la question de Cybèle et Astarté, où venue, Esther importante. Fondamentalement, il n'y avait qu'une seule déesse, le Saint-Esprit, représentée comme une femelle. Quand la distinction de sexe a été malicieusement introduite dans la divinité, à travers une perversion de la grande idée de l'Écriture, en disant que tous les enfants de Dieu sont une fois pour toutes engendrés par Dieu et nés de l'Esprit. Et sous cette idée, l'Esprit de Dieu, en tant que mère, fut représenté sous la forme d'une colombe. En souvenir du fait que cet esprit, à la création, flottait ou se mouvait, de l'anglais flutterait égale flottait, battait les ailes, voltigeait. De ce fait, comme je l'ai fait remarquer, c'est bien cela la signification exacte de ce terme dans Genèse 1, 2, sur la face des eaux. Cette déesse fut alors appelée Ops la flotteuse ou Juno, la colombe. Or, dans le premier âge de l'Église, ils ont abandonné leur premier amour. Lequel amour? D'après le livre des âges de l'Église, Esther leur amour pour le nom de Dieu et tout ce qui accompagne ce nom, notamment Dieu lui-même, par conséquent la divinité. Nous voyons donc qu'en abandonnant leur premier amour, les hommes ont abandonné la vraie compréhension du seul Dieu qui a eu un fils, et qui Esther lui-même entré dans ce fils. Et de ce fait, il a confirmé la révélation de lui-même que le Fils manifestait au monde, laquelle Esther la révélation de Jésus-Christ. Paul a dit que les gens en son jour sont arrivés au point où ils ont adoré un autre Jésus et que bien qu'ils ont utilisé le même évangile, ils l'ont présenté d'une manière pervertie et qu'en conséquence, le peuple a entendu un évangile d'une nature différente et qu'ils ont également reçu un esprit d'une nature différente. C'est-à-dire ce qui était tous les commencements de la grande tromperie. Dans l'âge de l'Église qui a suivi, Irénée vint définitivement établir le fait que le peuple était rentré dans l'idolâtrie et l'adoration païenne, en essayant tout le temps de soutenir leur doctrine en se servant des Écritures, en même temps que des fables de vieilles femmes. Dans son premier livre contre les hérésies, il a écrit ce qui suit concernant leurs croyances. À partir de Bitu qui Esther le propateur, et en a également connu comme Sige, silence. Ils enseignent également que nous, qui fut également appelé Monogène, le père de tous, Esther venue avec ses contreparties femelles, Aletiaya, et que de leur union s'en est Logo et Zoé, et qu'à partir de leur union s'en est Tilto, qui dérive de Taïo, qui signifie divin ou Dieu, et Ecclesia, le prédicateur. Et, bien sûr, le propateur créa séparément un Christ et Spiritu, un autre couple mâle et femelle qui représente Christ et le Saint-Esprit. Irénée a donc déclaré, puisqu'il y a une nécessité dans leur opinion, qu'une femelle éon devra exister côte à côte avec un mâle, surtout qu'elle est Esther, pour ainsi dire, la manifestation de son affection, pendant qu'au même moment, il lui attribue des affections et des passions humaines. Mais, s'ils eussent connu les Écritures, et qu'ils eussent été enseignés par la vérité, ils auraient sans doute su que Dieu n'estère pas comme les hommes, et que ses pensées n'y sont pas comme les pensées des hommes. 2. Car le Père de tout estère très éloigné de ses affections et de ses passions qui agissent parmi les hommes. 1. Ils affirment donc que là-haut, dans les hauteurs invisibles et ineffables, il existe un certain néon, parfait et préexistant, qu'on appelle Proarche, Propateur, et Bitu, dont il Esther dit qu'il Esther invisible et incompréhensible. Étant éternel et n'ayant pas été engendré, il a demeuré à travers d'innombrables cycles des âges dans une profonde sérénité et dans une profonde quiétude. En Noa, qui Esther également appelé Carie et Sige, a pareillement existé avec lui. 5. Enfin, Sobitu a pris la résolution de produire de lui-même le commencement de toutes choses, et il a déposé cette production, qu'il avait résolu de produire, dans son contemporain Sige, de la même manière qu'une semence Esther déposée dans la matrice. Elle alors, après avoir reçu cette semence, et qu'elle Esther devenue enceinte, elle enfanta nous, qui était à la fois semblable et égal à celui qui lui avait produit, et il était le seul qui pouvait comprendre la grandeur de son Père. Ce nous qu'on appelle aussi monogène, et Père, le commencement de toute chose. Aletheia aussi était produit avec lui. Et ces quatre ont constitué la première tétraine pythagorienne première née, qu'ils ont également dénommé la racine de toute chose. Car il y a premièrement bitu et sige, puis nous Aletheia. Et monogène, ayant pris conscience du but pour lequel il a été produit, il a lui aussi produit logo et zoé, étant le père de tous ceux qui devaient venir après lui, et le commencement et le modelage de la plénitude tout entière. De l'union de logo et zoé sont nés anthropoine d'ecclesia, et fut formé l'ogdoane première née, la racine et la substance de toute chose, appelée parmi eux par quatre noms, à savoir, bitu, nous, logo, et anthropo. Pour chacun des six masculos féminins si après, propateur s'ester unit par une union avec son anoua, puis monogène, qui ester nous, avec Aletheia, logo avec zoé, et anthropo avec ecclesia. 4. Après cela, le père a produit, à son image, au moyen de monogène, le hormoncionné sio, sans union de masculo-féminine. Car ils affirment qu'il arrive des fois où le père agit avec sige, mais que d'autres fois, il se montre indépendant du mâle et femelle à la fois. On appelle ce oro à la fois stauro, lithrote, carpiste, orote, métagoge. 3. Et s'ester par ce oro, déclare-t-il, que Sophia fut purifiée et établie, en même temps, elle fut restaurée à sa propre union. Car son antimosie idéinée lui a été ôtée, ainsi que la passion qui lui arrivait, elle Esther elle-même certainement restée dans la plénitude, mais ses pensées, ainsi que sa passion, ont été séparées d'elle par Oro, elle fut empêchée et expulsée de ce cercle. Cette pensée, sans doute, était une substance spirituelle, possédant certaines des tendances d'un néant, mais étant en même temps informée et dépourvue de manière, parce qu'elle n'avait rien reçu. Et dans ce récit, on dit qu'elle était une production imbécile et féminine. 5. Après que cette substance eut été placée en dehors de la plénitude des éons, et que sa mère fut restaurée à sa propre union, on nous dit que monogène, après avoir agi en conformité avec la sage prépensée du Père, a donné origine à une autre paire conjugale à savoir Christ et le Saint-Esprit, de peur qu'un des éons puisse tomber dans une calamité semblable à celle dans laquelle Sophia était tombée, dans le but de fortifier et de renforcer la plénitude, et qui, en même temps, a complété le nombre des éons. Christ les a alors instruits conformément à la nature de leur union, et il leur a enseigné que ceux qui possédaient une compréhension de l'engendré se suffisaient à eux-mêmes. Il leur a de même annoncé ce qui avait trait à la connaissance du Père. S'estère à dire que personne n'y pouvait comprendre ou saisir, ni voir le Père. Il n'y a que monogène seul qui connaît mieux le Père. Et la raison pour laquelle les autres éons possèdent une existence perpétuelle se trouve dans cette partie de la nature du Père, qui est incompréhensible. Mais la raison de leur origine et de leur formation se situait dans ce qui peut être compris de lui, c'est-à-dire à dire, dans le Fils. 8. Christ, alors, qui venait d'être produit, amena ces choses parmi eux. 6. Mais le Saint-Esprit leur a enseigné de rendre grâce de ce que tous, ils étaient rendus égaux entre eux, et il les a conduits dans un état de vrai repos. Ainsi donc, on nous dit que ces éons étaient constitués égaux l'un à l'autre dans la forme et dans le sentiment, à telle enseigne que tous devinrent comme nous, logo, anthropos, et Christus. Les œufs femelles d'eux-mêmes devinrent toutes comme Aletheia, Zoé, Spiritu, et Ecclesia. Tout étant alors ainsi établi, et amené dans un état de repos parfait, on nous dit ensuite que ces êtres ont chanté des chants de louange avec une grande joie en l'honneur du propateur, qui, lui-même, a participé à l'abondante exaltation. Puis, partant de la gratitude qui résulta du grand avantage qui leur avait été accordé, tout le pléthore des éons, ayant un seul projet et un seul désir, et avec le concours de Christ et du Saint-Esprit, le Père d'eux-mêmes, ayant posé le sceau d'approbation à leur conduite, il amena ensemble tout celui qui avait en lui-même cette grande beauté, cette valeur inestimable, et réunissant toutes ses contributions de manière si habile afin de former un tout, ils ont produit, à l'honneur et à la gloire de Bitu, un être ayant la plus parfaite beauté, l'étoile même de la plénitude, et le fruit de cela, à savoir Jésus. Celui dont on parle aussi sous le nom de Sauveur, est Christ, et de manière patronymique, logo, et tout, parce qu'il a été formé avec le concours de tous. Il nous Esther même dit que, par le biais de l'honneur, des anges de la même nature que lui-même étaient simultanément produits, pour être ses gardes de corps. Or, il n'est mis serait pas bon que je vous dise ces choses qui sont enseignées sans connaître au préalable ce qui Esther dit. Bien des fois, nous apprenons d'une source qui Esther deux fois ou plusieurs fois éloignée de ce qui Esther dit, et quand nous vérifions la chose nous-mêmes, nous constatons que d'une manière ou d'une autre, les paroles de la personne en question n'ont pas été rapportées fidèlement. Et le danger dans cela Esther, qu'il vaut mieux être correct, sinon, vous serez coupable d'avoir enseigné l'erreur à d'autres. Ainsi, ayant ceci à l'esprit, nous allons lire mot à mot ce qui a été écrit et dit, concernant la doctrine d'un Saint-Esprit femelle. Dans le Golden Grand Publication, nous lisons ce qui suit, la colombe mère, les attributs féminins de Dieu, dans le Nouveau Testament, le premier emblème sous lequel nous voyons le Saint-Esprit Esther, celui d'une colombe, qui descend sur la tête de Jésus, quand Jean-Baptiste l'a baptisé. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3h16. Quand nous rentrons à Genèse dans l'Ancien Testament, nous trouvons que le premier emblème sous lequel le Saint-Esprit s'Esther présentait Esther aussi l'emblème d'une colombe. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2. L'écrivain continue. Des hébraïstes éminents s'accordent en disant que ça, c'est Esther une image de la colombe mère qui Esther en train de couver son nid et qui Esther en train de chérir ses petits. Cette scène Esther une scène de chaos, de désolation, des eaux bouillantes d'une terre en état d'inondation dans une nuit dépourvue d'étoiles. C'est Esther en ce moment-là que la colombe mère de l'amour éternel et de la paix éternelle commence à construire son nid, et elle n'a pris du repos que lorsqu'une terre resterait Esther sortie de cette scène de décombres et de ruines. La scène Esther, celle d'une mère poule qui Esther en train de couver son nid. L'écrivain continue. Dans Genèse 8. Nous lisons un autre récit concernant une scène de désolation et de ruine. Les eaux du déluge sont en train de se déverser sur la terre. Ce sont des innombrables millions de gens de ce 20e siècle qui sont en train de flotter dans la mort et qui sont en train d'être barbotés par les effrayantes vagues de ce déluge. Dans ce jugement-là, 8 âmes seulement furent sauvées. L'écrivain continue en disant, dans le déluge du temps de Noé, il nous est donné un autre récit concernant la représentation d'une colombe. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Puis il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. 9. Mais la colombe Néhémie trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle remarquait si comment il a mis elle en majuscule revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. 10. Il attendit encore cet autre jour, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. 11. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Genèse 8, 6-11. L'écrivain continue. Il est clair, et facile de voir et de comprendre que la colombe est aussi un symbole du Saint-Esprit dans un rôle féminin, dans un rôle maternel. Maintenant, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est ceci, qui est ce que, après avoir lu ceci, a au préalable pensé qu'il s'agit ici du rôle de mère. Pour avoir crié fort, que ce message parvienne à beaucoup de toutes les façons. L'écrivain a dit, il est clair et facile de voir et de comprendre. Et je dis, pour qui est-il clair et facile de comprendre cela? Je suis désolé de n'avoir pas compris cela. Ainsi ceci leur fera croire que je n'ai mis suis pas spirituel, selon leur façon de voir les choses. Eh bien, continuons avec leur doctrine et j'espère que vous voyez la raison pour laquelle je frappe ça. Maintenant que nous démantelons cet enseignement pièce par pièce, concentrons d'abord notre attention sur cette portion de leur doctrine qui a trait au fait d'assimiler une colombe au Saint-Esprit. Premièrement, j'aimerais aussi dire que vous et moi, nous n'avons pas le droit de fabriquer nos propres types. J'ai entendu des prédicateurs typifier Pinocchio et le poignet de la porte, disant que Esther l'épouse. Je n'ai mis c'est pas là où ils ont ramassé une telle bagatelle. Mais nous sommes avertis dans les Écritures ci après d'éviter des fables de vieilles femmes et des généalogies sans fin, car elles nous amèneront à rejeter la vérité. 1 Timothée 1, 4. Et de Néhémie pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. 1 Timothée 4, 7. Repousse les contes profanes et de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. Darby, 1 Timothée 4, 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Type 1, 14. Et que Néhémie s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. De Pierre 1, 16. Ce n'est-ce pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais Esther comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il n'y a qu'un prophète confirmé avec le ainsi dit le Seigneur, qui a le droit d'utiliser les types et les ombres. Et si nous les utilisons, nous Néhémie pouvons utiliser que ce qui nous a été montré, pour notre usage, par les prophètes confirmés de Dieu. Autrement, nous courons le risque de quitter la vérité. Vous devez être prudent avec les métaphores et les paraboles, car elles sont utilisées dans le but d'égarer les gens plutôt que d'enseigner la vérité en profondeur. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 13, 10-17, de sorte qu'en voyant, ils n'y comprennent pas et qu'en écoutant, ils n'y comprennent pas ce qui Esther dit. Il y a quelques années, j'avais laissé mon église entre les mains d'un homme qui avait dit à l'assemblée que Snow White était le type de l'épouse, et que les sept nains étaient le type des messagers des sept âges de l'église. À mon retour, on m'en a parlé, et j'ai posé la question, si c'en est-il le cas, alors quel messager était dopé? Inutile de dire que depuis ce temps-là, nous n'avons pas eu trop de prédicateurs à notre chair. Je pouvais en citer une poignée. Le nombre de prédicateurs que nous avons reçus dans les 10 années écoulées. De toutes les façons, je suis arrivé au point où je n'en vois plus assez là. Des prédicateurs qui peuvent s'opposer à cette révélation et qui en revanche vous la présenteront autrement sont dérapés dans quelque chose qui est complètement déraisonnable et insensé. Malachie 1h10. Oh! Lequel de vous fermera les portes? Pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Maintenant, la première chose que j'aimerais que vous remarquiez est que les Écritures n'ont jamais dit elles. Elles n'ont jamais utilisé un pronom possessif féminin en référence au Saint-Esprit. Le prophète de Dieu confirme Néhémie l'a pas fait non plus. Jésus et William Branham ont tous les deux utilisé l'illustration d'une poule qui couve ses poussins, mais elle a toujours utilisé le pronom personnel il, et non pas elle, en décrivant le Saint-Esprit. Et même en décrivant le logo qui couvait la terre, il est décrit au genre masculin il, et non pas elle en train de couver la terre. E54 Limitation du christianisme 57-01-7. Longtemps en arrière, au commencement, quand Dieu avait mandaté le logo, lequel était le Fils de Dieu sorti du sein du Père, il avait commencé à couver la terre, a dit la Bible. Qu'est-ce que le mot couver? Que signifie-t-il? Comme être mère, comme la poule, sa couver c'est à rappeler ses poussins, sa progéniture. Et le Saint-Esprit, comme il était en train de couver, avec ses bras ou ses ailes, une terre morne, là où il n'y avait jamais eu de vie. Et alors qu'il s'est remis à couver, les eaux se mirent à se séparer, et la terre ferme fit surface. Frère Branham n'a jamais dit ce que ses prédicateurs prétendent, et frère Branham n'est jamais venu vous donner cette pensée que ses prédicateurs vous donnent. Maintenant, si vous prêtez attention, il continue avec cette pensée disant que le Saint-Esprit est comme une colombe et ils essaient d'établir que la colombe est toujours considérée comme une femelle. Et de ce fait, ces prédicateurs utilisent Genèse 8:8-9. Là où il est parlé de Noé et de la colombe qui est envoyée à partir de l'arche. Et au final, il vous amène à Jésus lui-même afin de faire en sorte que ceci soit comme si ça avait un fondement scripturaire, dans Luc 13:34, là où il parle tout à fait en métaphore. Mais voici la conclusion qu'ils veulent que vous tiriez à partir de leurs assertions, le Père Esther reste au ciel, mais la mère Esther entrée en lui. La partie femelle de Dieu. Youk. Donc, à ce stade, nous voyons que ces hommes utilisent la colombe comme point central pour déclarer que Dieu a en quelque sorte envoyé vers la terre sa propre partie femelle sous la forme d'une colombe. Mais qui est-ce appelé le Saint-Esprit? Jean 1h16 et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce, or, remarquez ici, il n'est pas dit que nous sommes la plénitude, mais nous avons reçu de sa plénitude la grâce. Éphésiens 1h22-23, qui estère son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Maintenant, ce verset ci-dessus peut sembler assez difficile si vous n'en prenez qu'une partie. Si vous lisez le verset 23, vous allez vous demander qui estère cette plénitude. Ensuite si vous revenez au verset 22. Vous verrez qu'Esther fait mention de l'Église tout juste avant qu'elle dise « qui estère son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous ». Ainsi, vous semblerez voir que l'Église estère sa plénitude. Mais ce n'est pas ce que cette Écriture dit ici. Allons au verset 17 et commençons par là. Éphésiens 1h17-23 « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle Esther l'espérance qui s'attache à son appel, quelle Esther la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 19 Et quelle Esther envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. 21 Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. 23 Qui Esther son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Remarquez que ce n'Esther pas à l'Église mais plutôt au Fils qu'il a été donné d'être la tête ou le chef de tous, excepté bien sûr le Père qui Esther la tête du Fils. Et étant donné que le Père Esther même la tête du Fils, alors qui Esther la plénitude dont il Esther question? 1 Corinthiens 15, 27-28 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il Esther évite que celui qui lui a soumis toute chose Esther excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ainsi, qui va donc régner? C'est Esther Dieu. La colonne de feu sera au-dessus de l'agneau dans la Nouvelle Jérusalem. Ainsi, vous pouvez donc voir que tout ce charabia qui place la prééminence dans l'épouse n'Esther rien de plus qu'une fausse doctrine du dernier règne laquelle Néhémie s'essaie de répéter depuis des années nous allons régner, car nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et ce qu'ils veulent faire, c'est Esther de régner sans lui. Ils cherchent donc à inventer une issue pour se débarrasser de celui qui Esther notre père. C'est Esther le même esprit qui Esther dans les frères Menendez. De tuer le père afin d'avoir l'héritage. Jésus a même donné une parabole du propriétaire de la vigne, qui avait loué son champ à des hommes et ensuite, au moment de la récolte, il envoya des hommes pour recevoir ce qui lui revenait. Mais ces hommes ont tué ceux que le père envoyait, et il envoya donc son fils unique. Quand ces hommes l'ont vu, ils ont comploté de le tuer, car, ont-ils pensé, si nous tuons le fils, l'héritage nous appartiendra. Et c'est Esther ce que ces doctrines sont en train de faire par l'entremise des désirs de ces hommes. Ils cherchent à se débarrasser du père et du fils, et pour ce faire, ils prêchent une doctrine qui place tout dans l'Église. Mais ce n'Esther pas parce qu'ils le désirent que cela arrivera, et le simple fait qu'il le prêche Néhémie veut pas dire que ça va s'accomplir. C'est Esther la même mentalité qui dit, si nous commençons une rumeur, cela va arriver. Ou si vous construisez ça, il va venir. Ou, le bel Esther tombé de l'autre côté de la porte, ainsi, la compagnie Esther sur leur voie. Des fables de vieilles femmes. Fouille. Éphésiens 4h13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Colossiens 1h19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Colossiens 2, 9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Or, nous avons lu chaque écriture où le mot plénitude Esther utilisé et aucune des Néhémie nous dit que la plénitude doit être dans l'Église. En fait, les deux dernières écritures nous disent très clairement que la plénitude tout entière était contenue dans un seul homme et c'était en Christ Jésus. Numéro 1 Si la plénitude Esther maintenant, dans l'Église comme ils le disent, alors tout ce qui était dans le Père doit pareillement être en eux. Alors, non seulement toute la puissance sera en eux, mais toute la connaissance de toutes choses et toutes les puissances de la création, et même toute la guérison. Alors s'ils ont toute la connaissance de toutes choses, alors dites-moi quand l'enlèvement aura-t-il lieu, quel jour, quel mois, voire même quelle année? Parce que Jésus a dit, personne n'est mis connaît ni le jour ni l'heure. Et si tel est le cas, alors toute la connaissance n'est pas en eux. Alors si toute la connaissance n'est pas en eux, toute la puissance n'est pas en eux non plus. Et vous voyez où vous en êtes? À quoi bon d'essayer de vous faire Dieu vous-même si vous n'avez pas sa sagesse, sa connaissance et sa puissance? Numéro 2. Si tout ce qui était dans le Père a été déversé dans l'Église, le Père est-il donc complètement vidé? Alors l'Église est-elle plus grande que le Père? Car ce qui contient est-il plus grand que ce qui est-il contenu? Numéro 3. Si tout ce qui était dans le Père est-il maintenant dans l'Église, alors pour ainsi dire, Dieu est-il complètement vidé? Alors l'unique Dieu qui existe aujourd'hui se trouve dans l'Église. Alors ce qui est incorruptible est devenu corruptible? Cela est contraire à ce que l'Écriture nous dit, que le corruptible revêtira l'incorruptible. Or l'Écriture Néhémie dit pas l'incorruptible sera contenu dans le corruptible, mais elle dit revêtira. Être contenu, c'est être mis à l'intérieur, mais l'Écriture nous dit la corruption revêtira. C'est à dire à l'extérieur. Il s'agit donc d'un habillement ou d'un récipient. Et puisque le récipient est plus grand que ce qui est contenu, il est donc nécessaire qu'un revêtement extérieur soit mis sur ce manteau de la mort afin qu'il puisse devenir incorruptible. Alors ce qui en réalité prend la relève de notre être est plus grand que notre être. En revenant à la publication de cet écrivain, nous le voyons utiliser les mêmes arguments utilisés par les gnostiques à l'époque d'Irénée, là où ils ont essayé d'attribuer toute manifestation de ces attributs qui ont trait à la manifestation de l'affection à une personnalité féminine ou à une personne qui faisait partie de la plénitude. Cet écrivain cite ensuite un trinitaire et fait référence au mot grec parakleto qui est utilisé dans la Bible pour décrire le Saint-Esprit comme étant le grand consolateur que Jésus avait promis d'envoyer. Sa formulation amènerait quelqu'un à croire qu'elle portait la consolation est uniquement un attribut féminin. Il explique également que ce mot parakleto est utilisé pour le mot avocat dans 1 Jean 2. Et puis ensuite il cite à contresens l'Écriture ici et dit, le Saint-Esprit, en réalité, comme il a été dit, est le principe mère dans la divinité, et comme quelqu'un qui est consolé par sa mère. Mais une lecture attentive de 1 Jean 2, 1, qui a été citée à contresens ici, Néhémie parle que d'un père qui aime, qui console. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, Paracleto, auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Cet écrivain dit, le mot grec Paracletonémie ne peut pas être traduit par le mot consolation, ou être pris comme le nom d'une influence abstraite. Le consolateur, l'instructeur, le patron, le guide, l'avocat, et voire même l'ami. Dans ce terme, une fois placé devant nous, est-ce une personne? Non pas une personne différente, mais la même personne qui est également père et la même personne qui a lui-même donné naissance à ce fils. Par conséquent, nous pouvons voir que, exactement comme dans le premier âge de l'Église, ces hommes ont essayé d'assimiler tout mot ou toute métaphore que la Sainte Parole de Dieu a utilisée pour décrire la relation de Dieu avec l'homme, laquelle relation que l'on a trouvée dans la femme, et ils utiliseront ces métaphores pour essayer d'établir leur doctrine selon laquelle Dieu a non seulement des attributs féminins, mais avait une moitié féminine qui est égale à lui. Et c'est pourquoi nous voyons que des mots qui ont trait à la naissance, ou au fait d'être né, ou à l'acte d'élever les enfants, ou de rassembler une couvée, sont pris comme une sorte de preuve scripturaire, qui établit de la crédibilité pour leur doctrine. Mais si l'Écriture parle du Saint-Esprit, comme étant féminin de nature, alors pourquoi Romains 8:11 dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » L'écrivain continue à parler de la maternité, et il dit, « La paternité humaine exprime un besoin qui Esther satisfait en Dieu dans leur rôle de père. Mais la maternité a son origine dans le Saint-Esprit. » Or une déclaration de ce genre Esther assez clairement l'évidence que cet homme Néhémie comprend pas la divinité. L'écrivain continue en disant, « Dans la régénération de l'âme, Jésus dans Jean 3. Il l'a décrit comme étant la nouvelle naissance. Néhémie, vous étonnez pas de ce qu'il a dit, vous devez naître de nouveau. » C'est Esther le Saint-Esprit dans le rôle de mère qui nous donne cette nouvelle naissance. Et même les directives et l'éducation que donne le Saint-Esprit sont décrites dans le langage d'élever les enfants et dans le langage. La consolation du Saint-Esprit est décrite à l'image même des caresses et de l'amour d'une mère. L'écrivain cite Esaïe 66, 13, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Remarquez encore une fois que le mot comme fait allusion à une métaphore. Mais je voudrais que vous remarquiez que nulle part cet écrivain donnera des écritures qui vont totalement anéantir cette théorie. Car dans 2 Corinthiens 3, nous lisons, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, et encore dans 1 Thessaloniciens 2, 11, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père Esther pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant. C'est Esther vraiment tragique de voir ces gens travailler si durement pour essayer d'établir leur doctrine sans avoir suffisamment réfléchi. Quand les hommes essayent d'affirmer que la naissance Esther est une affaire de la femme, ils doivent rejeter le fait selon lequel la vie vient du mâle. La femelle n'a en elle-même pas de semence qui contienne la vie. Elle a une partie de protoplasme dans laquelle la vie Esther est injectée. Mais de placer la femme comme étant le centre qui produit la vie, cela montre une ignorance totale de la source de cette vie. L'écrivain continue en disant, comme nous l'avons déclaré précédemment, Ève était le type de l'Église épouse. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, les attributs de mère qui étaient sous la forme de Paraclete ont été déversés sur les croyants comme un homme qu'une mère console. L'Esprit Mère, tout au long des 7 âges de l'Église, mettait au monde l'épouse de Jésus-Christ. Être né de nouveau, Esther, un langage de la salle pédiatrique où les enfants sont accouchés par leur mère. Puis l'écrivain cite Jésus qui condamne Nicodème pour n'avoir pas su ces choses, comme si l'écrivain s'adressait en cela à ceux qui sont tellement charnels parce qu'ils n'arrivent pas à voir ce que cet écrivain Esther est en train de dire ici. Et pourtant, si vous suivez de plus près ce qui Esther arrivait dans la Bible, Jésus a dit à Nicodème qu'il devait naître de nouveau, et que lui, Nicodème, a pensé en termes d'une femme, et une femme, sa propre mère, et ainsi Jésus l'a réprimandé d'être si hideux de penser en termes de maternité. Or, rappelez-vous de ce qu'Irénée a dit concernant ceux qui ont essayé d'attribuer les attributs féminins à la manifestation des affections. Remarquez que ce n'était pas l'affection en soi, mais c'était la manière dont cela était manifesté. Et nous entendons donc cet écrivain dire, quand nous parlons des attributs féminins en Dieu, nous Néhémie parlons pas du tout du sexe biologique. L'esprit féminin et l'esprit masculin sont différents. Ils sont évidents dans la voix, dans les manies, dans le langage et dans l'expression du corps. L'esprit féminin sous la forme des attributs était aussi en Dieu. Autrement, comment pouvait-il être El Shaddai, quelqu'un qui a des mamelles? Je ne m'y voudrais pas avoir l'air grossier ici. Mais tout ceci, ça parle des femmes et de l'action d'élever des enfants. Et les seins semblent vraiment être pris pour de la paille. Les femmes Néhémie sont pas les seuls êtres humains à posséder des mamelles. Et le simple fait que la Bible l'appelle El Shaddai ou celui qui a des seins, Néhémie met pas des qualités féminines en Dieu. En effet, j'ai vu des hommes qui ont des seins plus grands que ceux de beaucoup de femmes. En outre, dans Jean 1, 18, nous lisons « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » En conséquence, le Père a un sein. La Bible Néhémie dit pas dans le sein de la mère, n'est-ce pas? En outre, dans Nombre 11, 12, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le père nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Maintenant, il est intéressant de voir comment la parole de Dieu agit. Car le mot utilisé ici pour nourrir, ou élever ou allaiter, n'est pris que dans son sens figuré. Ce mot est en fait employé dans la Bible d'état des fois de même que le mot croire ou la croyance, et comme ce mot est lié avec une métaphore d'un père qui nourrit ou élève ou allaite son enfant. Nous voyons donc que cela fait référence au maintien de la vie. Même frère Branham a allaité son fils Billy Paul à partir d'une vieille bouteille de coca avec une tétine dessus. En conséquence, Néhémie me racontait pas que quand on fait référence à celui qui a des seins, c'est là une évidence d'un attribut féminin. À ce stade, cet écrivain semble avoir épuisé ses sources d'écriture et de citations, et fondamentalement, il commence à étendre ce qu'il a déjà utilisé, pour en quelque sorte faire convenir la chaussure, mais ça Néhémie marche pas du tout. L'écrivain commence à conclure avec les mots ci-après, le peuple de Dieu a besoin d'être touché par la main réconfortante du Dieu Mère ainsi que par l'autorité et la conduite du Dieu Père. Il remplit tous les deux rôles. Je pense que vous pouvez dépister que cette erreur résulte d'une compréhension erronée de la divinité. Cet écrivain dit, comme nous l'avons dit précédemment, les deux esprits étaient en Adam, le premier époux dans Genèse 1, avant que Dieu les sépare dans Genèse 2. Ces deux esprits étaient aussi dans le second Adam, et il était aussi un époux. Or, nous savons qu'Adam n'avait pas deux esprits en lui et Dieu non plus. Et s'il avait deux esprits en lui, alors lequel des deux est le Saint-Esprit et quel est le nom de l'autre esprit? Ce que ce prédicateur n'arrive pas à comprendre est que Dieu est esprit au singulier et qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En effet, dans les citations ci-après, frère Branham nous dit qu'il n'y avait qu'un seul esprit, car en effet, nous traitons de la vie. La vie d'un humain mâle n'est pas différente de la vie d'un humain femelle. C'est la vie humaine. La vie bovine est la même, qu'il s'agisse de la vie qui est dans une vache ou de celle qui est dans un taureau. C'est une vie bovine. La vie de cochon est la même, que ce soit un verra ou une truie. La même chose avec la vie de chien. La vie de chien est la même que ce soit dans le chien ou la chienne. La vie de chien, c'est la vie de chien. Dans le message, vous devez naître de nouveau 58-06-19, frère Branham a dit, là où, Adam est le type le plus robuste, car il est à l'homme, le type masculin. La femme était féminine, mais c'est le même esprit, car il l'a tiré d'Adam. Mais, ce que ces hommes n'arrivent pas à comprendre est que quand frère Branham fait allusion aux attributs de Dieu, il parle des pensées de Dieu. Et de surfait, si frère Branham a dit qu'il y avait des attributs féminins, Il est Esther en train de dire que Dieu avait les pensées d'avoir une femme. En parlant à cet homme il y a de cela quelques années, après avoir lu ce livre, je lui ai expliqué ceci. Je lui ai dit qu'en matière de vie, il n'y a pas question de vie féminine ni de vie masculine, mais il s'agit de la vie tout court. Et j'ai dit, un homme a les pensées d'avoir une femme, mais cela n'est mis fait qu'il soit en partie femelle. Et le fait qu'un homme engendre des filles n'est mis fait pas qu'il soit en partie femelle non plus. Après tout, la vie Esther dans le mal, et s'il engendre des filles, alors la vie qu'Esther dans ses filles doit provenir de sa vie. Dans Jean 6, 63, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 1, 4 dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et même quand cette vie a été exprimée, elle n'est pas venue sous une représentation femelle, elle est venue comme un mâle, parce qu'un mâle est un porteur de la vie. Jean 5:26, Jésus a dit, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ceci parle d'un Père qui donne exactement la même vie à une progéniture. 1 Jean 1, 1-2, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, moins deux car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, tiré au verset 3. Il Esther dit 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion Esther avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il n'Esther nulle part mentionné que Dieu lui-même se manifeste dans un rôle féminin. Pour finir. J'aimerais vous lire quelques citations de frère Branham que cet écrivain utilise également, mais au sujet desquelles vous verrez que quand vous traitez des pensées de la vie et que les attributs de Dieu sont ses pensées, vous verrez alors qu'il n'y a aucun mystère profond et secret qui nécessite à tout prix d'être docteur pour le comprendre. Mais que Dieu se cache simplement lui-même dans la simplicité et qu'il est Esther l'auteur et le donateur de la vie éternelle. Ce n'est pas une autre vie, mais Esther sa propre vie même. Cela Néhémie fait pas que nous soyons lui, pas plus qu'une fille d'un père Néhémie fait pas d'elle le père lui-même. Ça signifie simplement que sa vie, sa nature, ses caractéristiques, et ses attributs coulent à travers chaque veine de ses enfants. 29-2 Christ Esther le mystère 63-07-28 Or, vous voyez le secret. Faire quoi? Restaurer l'Ève tombée, comme elle était un figuier de l'Église. Et remarquez maintenant, de même que Dieu a ouvert le côté d'Adam et qu'il en a tiré Ève par sa propre chair et par son propre sang, et qu'il a divisé son esprit, de l'esprit masculin à l'esprit féminin, et qu'il l'a placé dans Ève, qu'il a pris une côte du dessous son côté, et qu'il forma Ève à partir de cela, pareillement, Dieu a fait la même chose, il a tiré du côté de Christ, le sang et l'eau, et Christ Esther la parole, et il Esther en train de prendre la parole, et il Esther en train de former son Église. Vous voyez donc qu'il n'est mis par le pas d'un esprit féminin distinct venant de Dieu, mais il s'agit de sa parole même qui Esther le porteur de son propre esprit à lui. La parole est une semence, d'après Jésus et William Branham est une semence. Par définition, Esther un porteur de la vie. Paragraphe 111 Le lever du soleil 65-04-8 et, puisqu'il Esther l'époux, l'épouse doit ressusciter, parce qu'elle Esther une partie de lui. Et elle n'est mis peut-être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations, de tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Elle n'est mis peu que manifestée. si elle fait autre chose que l'époux a fait. Elle n'espère pas l'épouse. En effet, elle espère chair de sa chair, oser de son oser, vie de sa vie, puissance de sa puissance. Elle espère lui. De même que l'homme et la femme sont un, et que la femme a été prise de son côté, elle, elle a reçu son esprit à lui, l'esprit féminin, qui vient de lui, la chair de son côté, ce qui a alors constitué la mécanique et aussi la dynamique, sa femme. Son esprit à lui, et sa chair à lui, en les réunissant, cela a constitué la mécanique et la dynamique. Or, je sais que frère Branham utilise les mots l'esprit féminin qui vient de lui, mais Néhémie dit pas que Esther a un esprit différent de ce que Jésus a. Il a dit que Esther a le même esprit et que Esther tout simplement dans l'épouse. Esther tout. Les filles d'un homme ont sa vie en elles, mais elles Néhémie sont pas mâles. Elles sont féminines et leur nature Esther féminine. Rappelez-vous, vous devez faire attention à la manière dont vous entendez, car ce avec quoi vous avez l'habitude de tester et de mesurer cette parole, c'est Esther avec cette mesure que vous conclurez. Et si vous êtes à la recherche d'un Saint-Esprit féminin, vous en trouverez certainement quelque part. Je n'ai mis pas à quel degré il sera saint, mais vous le trouverez. Paragraphe 51. La semence n'hérita pas avec la balle. -65-0429, car, quand Dieu a séparé Adam, il était tous les deux. Nous découvrons que, Adam était esprit, au début. Il créa l'homme à son image, il les créa mâle et femelle. Puis, Genèse 2 et ainsi de suite, il créa l'homme à, de la poussière de la terre. L'homme a été créé à l'image de Dieu, Dieu Esther Esprit. Ainsi, il Esther un homme esprit. Puis l'Esther devenu un homme chair, la chair animale sur la terre, il Esther en train de montrer le portrait de l'épouse ici. Il n'a jamais pris et formé un autre être, mais il a pris une partie d'Adam, la création originale, il a tiré de lui, une côte de son côté, et il a fait sortir l'esprit féminin d'Adam, il a laissé l'esprit masculin là-dedans, et il a placé ça dans la partie féminine. Par conséquent, elle Esther une partie de son esprit, une partie de son corps, la chair de sa chair, l'oser de son oser, parole de sa parole, vie de sa vie, et s'Esther comme ça qu'Esther l'épouse envers Christ. Ainsi, comment Esther l'épouse envers Christ? Disons tous ensemble. Parole de sa parole. Vie de sa vie. Dieu tient sa parole -57-0120 paragraphe 76. Je crois que Jésus Esther le Fils de Dieu. Je crois que, dans son corps, il était un homme. Il Esther né d'une femme, tout comme moi, mais son sein Néhémie venait pas d'une femme, il venait de Dieu. Et Jéhovah Dieu, le Logo, qui a couvé la terre, dans mon message de ce matin, et qui a couvé la terre, pour faire sortir le premier homme de la poussière de la terre, il a couvert Marie de son ombre, et il l'a couvé, pour accomplir sa parole, et il a créé la cellule de sang, qui a produit le Fils de Dieu vivant. Je crois que, dans son corps, il était un homme. Je crois que, dans son âme, il était Dieu. Il était la manifestation de Dieu, ici sur terre. Dieu était en Christ, se réconciliant le monde avec lui-même. Remarquez comment frère Branham utilise la métaphore de Dieu couvant ou couvrant, de l'anglais, to brood, Marie de son ombre pour accomplir sa parole. Nous savons cependant que c'est Esther, le même Saint-Esprit qui est Esther le Père de Jésus. Ainsi, comment cet écrivain peut-il utiliser le mot couver uniquement pour représenter un esprit féminin? Quel bien un Saint-Esprit féminin aurait-il fait à Marie qui elle aussi était une femme? Une femme née ne peut pas engrosser une femme. Il faut que ce soit un porteur de semence, un rôle masculin. Paragraphe 240. Le lever du soleil maintenant. Remarquez cette puissance vivifiante. Zoé, ce qui amène la parole, la pensée qui était en Christ, qu'elle soit en vous. Alors, j'essaie de vous montrer que, vous, quand vous êtes ressuscité, quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vous a ressuscité, vous aussi. Et vivifié aussi, rendu à la vie, avec lui, vous êtes maintenant vivifié, rendu à la vie, même si, à ce moment-là, vous n'étiez qu'un attribut, dans ses pensées, mais Dieu avait vu tous ceux qui seraient en lui, à la fin, voyez-vous. Quand Dieu a abaissé le regard vers le corps, l'esprit l'a quitté à Gethsémané. Il fallait qu'il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes amis, il n'était pas obligé de faire ça. C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, qui était une chair humaine. Et Néhémie, s'il était allé là-bas, en tant que Dieu, il Néhémie serait jamais mort de cette mort-là. On Néhémie ne peut pas tuer Dieu. Mais il n'était pas obligé de le faire. Mais, souvenez-vous, il Esther allé là-bas, avec vous en lui. Voyez-vous, Dieu n'avait pas encore séparé l'épouse de l'époux, à ce moment-là. Donc, quand Dieu a baissé le regard vers le corps, il a vu les deux, l'homme et la femme. Toi as été racheté dans ce corps-là. Voyez? Ils sont un, la même parole. La même parole qui parlait de l'époux, parle de l'épouse. Encore une fois, nous voyons frère Branham nous dire que nous sommes un par la même parole. Il a dit, la même parole qui parlait de l'époux, parle de l'épouse. Il n'est-il pas en train de parler d'une doctrine qui voudra attribuer à Christ une personnalité moitié homme moitié femme. Un prédicateur, là-bas au sud, qui enseigne ceci, a dit, la raison pour laquelle Jésus avait de longs cheveux Esther, qu'il était à la fois homme et femme. Puis il a donné la citation ci-dessus. Vous Néhémie pouvez faire dire au prophète que ce qu'il a dit ici. Il n'a pas dit que Jésus était à la fois homme et femme. Autrement Jésus aurait un esprit perverti. Parce que frère Branham a dit, au paragraphe 120, dans son message, la semence du serpent 58-09028-4 alors. Quand vous voyez un homme qui Esther un peu, vous savez, qui se manucure, ou comment vous appelez ça, les ongles, et, vous savez, 4 d'un côté et 5 de l'autre, et il s'arrange les cheveux, tout lissé, et il se tient la bouche ouverte comme ça, et toutes sortes de choses semblables. Un de ces jolis jeunes hommes. Souviens-toi bien, sœur. Il y a quelque chose qui cloche chez cet oiseau-là. Il y a quelque chose qui cloche. Tu fais mieux de l'avoir à l'œil, celui-là. Et dans son message, El Shaddai 59-0416, paragraphe 3, vous savez, Jésus était loin d'être un efféminé. Il n'était pas le genre efféminé. Il était un homme. Mais, malgré tout, il parlait en allant droit au but, et toutefois, avec douceur. Je crois que vous avez vu, par la multitude des exemples, que premièrement, il y aura des hommes qui se lèveront avec des enseignements pervertis, qui vont séduire les faibles dans cet heure-ci, exactement comme il en était jadis à l'Alpha. Deuxièmement, j'ai bon espoir que vous allez examiner attentivement le ministère Alpha de Christ parce que si vous n'aimez le fait pas, vous périrez à coup sûr, et vous serez séduit par des doctrines étranges. Troisièmement, J'espère que vous apprécierez davantage le fait que nous n'ouvrons pas nos portes à n'importe qui. Parce que nous avons une grave responsabilité et un office grave envers Dieu, envers sa parole et envers vous, en tant que son peuple. Enfin, j'aimerais dire ceci. Avec chacune des doctrines que les cœurs des hommes fomentent, il y a toujours un motif derrière tout cela. Exactement comme nous vous avons montré mercredi soir le motif qui réside derrière la fausse doctrine qui soutient que la plénitude de Dieu Esther maintenant dans l'épouse. Nous avons vu que c'est Esther Lucifer qui Esther l'ancêtre de cette doctrine et que le motif caché était qu'il voulait être adoré. Ces hommes veulent tout placer dans l'église. Et malgré cela, ils veulent être la tête de cette église. Ainsi, cela les rend supérieurs au corps de Christ. Ils veulent s'approprier Jean 14:12 eux-mêmes, et ils perdent de vue que Jean 14:12 n'est mis par le pas du corps de Christ tout entier. Ça parle du ministère d'un seul homme, et cela fut accompli dans William Branham. Même frère Branham lui-même nous a dit les mêmes choses, après que les sceaux eût été prêches, pour ceux qui n'ont pas confiance en ce qu'il a dit avant les sceaux. Il a dit, au paragraphe 171 du Super Signe 63-1129, c'est Esther entre vos mains. Ce soir, c'est Esther de nouveau jetée entre vos mains. Hébreux 13, 8. Peu importe combien de conseils des églises nous avons, il demeure toujours comme Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Les œuvres que je fais, il cite Jean 14, 12. Si ça Esther en vous, elle manifestera Jésus-Christ. Amen. Or, vous tous, vous n'aimez vous pouvez pas tous être cet homme-là, mais vous pouvez être une partie de cela, avec votre foi. Eux tous Néhémie pouvaient pas être un Jésus, quand ils étaient sur la terre, mais ils pouvaient le croire, lui, et accepter le message. Il y a eu un seul Moïse, un seul Élie, un seul Noé, etc. Ça a toujours été ainsi, mais le reste d'entre eux pouvait accepter cela. Et il n'aurait aucun ministère s'il n'y a pas eu quelqu'un qui puisse y croire. Jésus n'aurait pas de ministère si personne n'y avait cru. Paul n'aurait pas de ministère si personne n'y avait cru. L'identification 64-02 insiste, une dame m'avait posé la question, en venant sur la route, l'autre jour, d'ici, elle a dit, c'est Esther Florence Chakarian. La sœur à frère de Mo, sœur Williams et les autres, ils étaient assis dans la voiture. Elle a dit, frère Branham, je jeûne maintes et maintes fois, mais je n'arrive toujours pas à chasser les démons. J'ai dit, vous n'êtes pas né pour faire cela. Votre devoir, c'est Esther, celui de jeûner. Le Saint-Esprit Esther en train d'agir à travers quelqu'un d'autre pour accomplir cela. Vous n'y connaissez pas la place. Si nous avions du temps, nous allions enseigner ces choses dans de longues réunions. Comment une personne porte un fardeau comme celui-ci pour quelque chose, par ici. Vous n'y savez pas. Ce n'est Esther pas à vous de savoir. C'est Esther lui qui le fait. Vous êtes simplement soumis à votre appel. Alignez-vous toujours avec les Écritures, pour voir si c'est Esther en ordre ou pas. Et maintenant, ayant ceci à l'esprit, courbons simplement nos cœurs et nos têtes dans un mot de remerciement à celui qui, non seulement nous a vivifiés au jour de sa visitation, mais aussi à sa parole de vie d'où nous tirons notre force, notre paix et notre repos. Courbons nos têtes, bienveillant Dieu et Père, toi que nous pouvons vraiment appeler notre Père, et en qui nous avons notre vie, et notre souffle, et même notre être. Nous te remercions, Dieu, de ce que tu es aille notre Père. Quand le monde recherche une terre mère, et une nature mère, et un ceci mère, et un cela mère, nous sommes reconnaissants d'avoir un Père, qui est également l'auteur et le donateur de la vie éternelle. Merci pour ta tendre main pleine d'amour et qui veille sur nous. Et merci de nous avoir donné une onction, qui est venue de terrain propre. Et pour nous avoir donné de comprendre qui tu es et la raison, pour laquelle tu es venu dans cette heure. Sois avec nous maintenant, Père, alors que nous prendrons différents chemins en quittant ici, car nous présentons ces requêtes dans le nom précieux de ton Fils plein d'amour, qui, nous l'avons compris, est notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi lui qui est venu sur la terre portant ton nom. Et nous savons qu'un jour nous porterons aussi ton nom. Encore une fois, merci, cher Dieu, car tu es vraiment notre Père. Amen. C'est Grace Fellowship Tabernacle, avril 2003. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.com.